Merci, Monsieur Mine. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Donc, nous sommes en petits groupes. Nous avons entre les mains les retours de vous ou de personnes qui sont absentes sous forme de liste de questions dont nous avons pris note. Et ce que nous vous proposons, c'est de répondre à ces questions, plus ou moins longuement. En vous laissant bien évidemment tout loisir d'en introduire de nouvelles ou d'interrompre le développement ou de relancer ou de faire des échanges ou de passer à des questions qui n'ont pas été que vous n'avez pas vous-même soumis mais qui vous préoccupent puisque tout à l'heure vous parliez du cheval de Troie, des débuts de cours, etc. C'était pas parmi les questions qui nous étaient données. Alors, je crois que le premier point qu'on peut aborder, c'est d'introduction, ce sera parfait, puisque la première question qui vous a été donnée, c'est quelle est la finalité d'un tel séminaire, hein. Donc, c'était mettre les pieds directement dans le plat. Alors, Sébastien Claire m'a dit qu'il donnerait une très courte réponse, donc je vais lui donner la parole. Et puis ensuite, je parlerai de moi-même, de la manière dont je vois les choses.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les mots très justement choisis par M. le Proviseur. Le but, c'est l'échange de pratiques, sachant que... Oui. Merci. Sachant que dans ce métier, nous sommes souvent conduits à prendre nos décisions seuls, que ce soit pour le choix des documents dans nos cours, où nous nous retrouvons dans notre bureau seuls, ou que ce soit pour ce qui est de décider d'une sanction quand un élève transgresse le règlement, où nous sommes seuls. Donc je pense que c'est important d'avoir des temps d'échange de pratiques pour progresser mutuellement dans l'intérêt des élèves.
C'est tout ?
Voilà.
Alors c'est très bien. Voilà. Alors, moi, nous ne nous sommes pas concertés pour les réponses, mais il se trouve que nous avons une bonne entente. Donc, moi, c'est exactement la même chose que je voulais dire, mais je vais l'élaborer un peu plus. C'est réflexion sur pourquoi ce séminaire ? Pour mettre en place un système de réflexion sur les pratiques. Pourquoi ? Parce que dans nos pratiques professionnelles, nos pratiques d'enseignement, en général, on a formé des habitudes en fonction de l'expérience, on a formé des routines, et puis aussi on a improvisé. Hein, je veux dire, alors il y a eu aussi bien sûr des formations pédagogiques au niveau pour les jeunes, au niveau de l'UFM, mais il y a, disons, une habitude de l'expérience. D'autre part, il y a, et ça c'est intéressant, de réfléchir sur ses habitudes. D'autre part, une chose sur laquelle on n'insiste pas assez, ou on insiste d'une manière qui, à mon avis, vague et elle-même affective et émotionnelle, c'est qu'il y a une dimension affective et émotionnelle de la situation de classe et de la relation, je dirais, professeur-élève, élève entre eux, de la situation de classe. Alors moi, je ne suis pas un partisan du tout de la psychologisation à outrance des choses, mais je crois que c'est très important de prendre en compte cette dimension affective et émotionnelle, surtout lorsque, d'une part, on essaye de l'ignorer ou que, de toute manière, on la laisse opérer toute seule sans prendre de distance ou de réflexion sur nos réactions affectives et émotionnelles, sur les blocages, sur les peurs, sur ce que les stratégies de survie qu'on met en place. C'est très curieux qu'au fond, finalement, on se retrouve tous très vite dans ces diagnostics. Donc, un des éléments de réflexion sur les pratiques, c'est, un, premièrement, la réflexion sur les habitudes, les routines et les improvisations. Deuxièmement, une réflexion sur la dimension affective, émotionnelle des relations en classe. Je ne sais pas, c'est pas chez vous que ça s'est passé, mais c'est dans un autre établissement que les professeurs nous ont fait part de l'importance de la dimension de l'estime de soi des élèves, par exemple. Et c'est typiquement une dimension affective et émotionnelle que normalement nous ne prenons pas en compte dans la relation pédagogique et qui est pourtant au cœur et qui la fait capoter comme elle peut aussi la faire réussir. Donc revenir, le but de ce type de séminaire, c'est revenir sur les expériences et sur les vécus. C'est deux choses différentes, il y a les expériences et les vécus des expériences. Il peut y avoir des vécus extrêmement traumatisants ou extrêmement gratifiants des expériences. Et puis, troisième dimension, c'est réfléchir de manière collective. Moi, ce qui m'a frappé au long de ces interventions, c'est le besoin de mise en commun et de réflexion collective, et c'est aussi, je dirais, l'atomisation. Ce n'est pas toujours le cas, les choses commencent à changer. C'est l'atomisation des activités individuelles. C'est-à-dire, chacun est avec sa classe, avec ses problèmes, avec sa formation. Alors, d'une certaine manière, c'est parfaitement normal, puisque le système français est un système très largement de formation, par sélection, et où on demande à chacun de jouer sa propre carte pour arriver dans sa profession. Mais ensuite, on se retrouve peu dans la dimension collective, et il y a un manque de cette réflexion, de cette mise en commun des expériences au niveau collectif. On a remarqué aussi, au fil de ces interventions, la question, l'importance cruciale de la disparité des pratiques et de la mise en harmonie des pratiques au niveau de la communauté. Donc voilà en fait toutes les raisons, toutes les finalités de ce type de séminaire. Il y a toujours dans ces séminaires, puisque vous avez eu le premier, une première partie qui n'aura pas lieu, qui n'y aura pas aujourd'hui, qui est une partie de nous à vous, mais j'ai toujours été, pour ma part, extrêmement intéressé par la seconde partie, qui est la partie, je dirais, de vous à nous et souvent entre vous. Alors évidemment, on voit bien d'ailleurs au fait qu'un certain nombre de gens ne viennent pas, auraient estimé d'avoir besoin de venir, on voit bien pourquoi le fait de ne pas venir va avoir avec cet individualisme qui est persistant dans la profession, puisqu'encore une fois c'est comme ça que la profession est conçue, c'est comme ça qu'on est formé, c'est comme ça aussi qu'on est promu, quoi, je veux dire, c'est des destins individuels dans l'éducation nationale. Or, il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on est obligé de découvrir, on aurait dû devoir le découvrir depuis longtemps, c'est que c'est pas seulement une affaire de destin personnel. Et alors quand je vous dis ça, que ce qui soit bien clair, c'est que je ne vous mets pas en cause, vous personnellement, les profs de lycée personnellement, etc. J'ai vécu exactement la même chose au niveau de ma vie universitaire. J'ai rarement pu développer des actions collectives au niveau de ma vie universitaire. C'était chacun dans sa tour d'ivoire, chacun dans son excellence et ses grandes qualités, et une disparité des pratiques, une disparité des orientations par rapport auxquelles les étudiants, alors eux, ils contestaient pas, mais les étudiants étaient totalement perdus. Mais impossible de faire comprendre l'esprit d'un département, par exemple. Bon, là, vous n'êtes pas dans un département, mais il y a une communauté d'enseignement. Et moi, qui ai pas mal enseigné à l'étranger, je sais ce que c'est que l'esprit département, si vous voulez, dans les universités, l'université anglaise, l'université américaine. Ça peut être très étouffant, hein, d'ailleurs, au bout d'un certain temps, parce qu'on a l'impression d'être un peu dans un couvent, hein, dans une communauté conventuelle. Quand vous êtes à Cambridge, vous êtes dans votre collège, hein, et vous faites partie du collège. Vous déjeunez avec les collègues, à midi, les vins sont excellents, hein, c'est formidable, mais tous les jours, vous revoyez la binette des gens que vous aimez moins, hein. Peu importe, mais ça fait partie du rituel de la communauté. Et il y a les ragots, il y a tout ça. Mais en France, on est très individualiste, on n'a pas ces habitudes, or on a affaire à des problèmes qui sont à traiter de manière communautaire. Et je vous dirais que c'est pareil dans les entreprises. Je fais actuellement un certain nombre d'interventions dans les entreprises, parce que j'ai la réputation d'être une sorte de médiateur, surtout dans les cas où il y a des crises. On s'aperçoit qu'il y a un énorme déficit de communauté dans les entreprises, et c'est pas dû seulement à la volonté d'exploitation des catégories dirigeantes, c'est des habitudes. Alors autant quand vous avez une entreprise dans le technologique, les habitudes de collaboration technique entre ingénieurs sont prises, mais dès qu'on sort du domaine de la collaboration technique, du projet technique, il n'y a plus de collaboration. Alors moi par exemple, on me demande pas mal d'interventions aujourd'hui sur l'intelligence collective. Et vous avez le mythe que l'intelligence collective, c'est quand on s'y met ensemble, ça avance beaucoup plus vite qu'eux, etc. C'est le mythe technologique et qui fonctionne bien quand vous faites une fusée. Quand vous faites une fusée, il y a une vraie intelligence collective. Il y a intérêt d'ailleurs, parce qu'en général, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a eu un gros, gros défaut dans l'intelligence collective. Mais dès qu'on est sorti du projet technologique, l'intelligence collective, elle dysfonctionne énormément. Les gens, curieusement, rejouent leur partie individuellement. Et alors, c'est peut-être une habitude française, c'est une habitude qui tient à notre nature humaine, c'est que chacun est seul dans son royaume, en quelque sorte, mais en même temps, on a tous à affronter. Si vous voulez, celui qui voit les problèmes du point de vue commun, c'est le proviseur, et puis c'est le conseiller principal d'éducation, c'est eux qui voient. Mais il faut voir que c'est le problème qui nous échoit à tous. Voilà, donc c'est le sens de ces séminaires. Je voudrais faire juste une remarque humoristique, mais sur ce qu'a dit M. Mine, c'est que c'est vrai aussi, alors là encore, c'est pas pour vous culpabiliser hein, du tout, mais surtout pas vous puisque vous êtes là, mais c'est vrai aussi que les défauts que nous reprochons à nos élèves existent tout aussi bien chez les professeurs, mais aussi chez les cadres. Hein. Moi, je suis surpris de voir que si j'ai pas un bon cheval de Troie, quand je fais une conférence devant 300 cadres de très haut niveau de la société Safran, par exemple, comme ça m'est arrivé début janvier, si j'ai pas un bon cheval de Troie, au bout d'un moment, ils vont se mettre à bavarder. Hein, exactement. Et l'autre jour, dans un de ces séminaires, où il était question continuellement du fait que les élèves bavardent, j'avais un groupe de profs qui nous a empoisonné l'existence, ils étaient à gauche, qui n'ont pas arrêté de bavarder, et qui ensuite ont pris la parole pour parler du bavardage des élèves. En fait, c'est des travers de notre société qui sont en jeu. Donc c'est pour ça que c'est pas gênant la faible amplitude de notre capacité d'attention aujourd'hui. C'est un trait collectif. C'est pas seulement les ados qui sont, ils sont plus que nous, mais c'est un trait collectif de l'esprit du temps. Donc je crois que c'est pour réfléchir à tout ça et puis essayer de voir ce qui fait vraiment problème. Ce qui fait moins problème qu'on penserait et ce qui peut être aussi aménagé par des initiatives collectives. Voilà. Alors, je ne sais pas si là-dessus vous voulez tout de suite interventions ou si on passe au point suivant.
Je pense que dans oui. Ce déjà, il y a un travail en commun qui est fait par les professeurs coordonnateurs.
Si l'équipe pédagogique fonctionne correctement et si l'équipe de notre discipline fonctionne correctement, si beaucoup de personnes. Ce que j'ai remarqué aussi, vous parliez de Monsieur Michaud d'un retour du collectif face aux nécessités technologiques. Moi, j'ai remarqué dans mon lycée un retour au collectif quand on est dans l'adversité. C'est-à-dire que c'est durant les années où on a eu le plus de crises avec certaines classes ou bien de bandes qui entraient dans le lycée pour chercher des jeunes, etc., qu'il y avait automatiquement un rapprochement entre nous pour travailler ensemble, pour chercher des solutions.
Ah, mais enfin, c'est pas une solution de malgré que le Titanic sombre pour que les gens
certainement
agissent collectivement.
Oui.
Ça serait plus simple. Vous voulez dire quelque chose, non?
Je voulais dire que j'avais tout en copier, enfin, on a trouvé en salle des profs, suite au premier séminaire, un article du Parisien que vous citez, et puis c'était marqué cours d'autorité pour les profs. Ah, pardon. Ça marche?
Oui.
Ah, d'accord. Que donc, suite au premier séminaire, quelqu'un nous a gentiment mis donc cet article du Parisien en salle des professeurs, que j'ai d'ailleurs photocopié pour le garder, et qui s'intitule c'est dans la rubrique Vivre mieux, cours d'autorité pour les profs. Et ensuite, les enseignants peuvent suivre des cours pour mieux gérer leur classe et faire face à des élèves turbulents ou violents. Nous avons assisté à la première session en présence de profs volontaires. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu ça, moi, ça m'a un petit peu gênée parce que je me suis dit, bon, ben voilà, on est catalogué, les gens qui participent à ce séminaire sont catalogués comme des gens qui ne sont pas capables finalement de gérer leur classe et on va leur expliquer. Alors que ce n'est pas ça en fait, puisqu'on n'attend pas des choses toutes faites, on attend la réflexion, mais le retour qui en est fait, c'est ça, puisqu'après, à la fin de l'article, il y a un certain nombre d'interviews qui sont données et la question est claire, selon vous les enseignants savent-ils se faire obéir? Voilà. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'avais posé la question de la finalité du séminaire parce que ça me gênait, je trouvais ça très réducteur et en plus alors, pas très bien.
Moi je vous répondrai étant donné que je suis plus vieux que vous et que j'ai l'habitude maintenant un peu de la communication, je vous rappellerai qu'il y a toujours une simplification dans la communication. Hein. La seconde chose, c'est que je vous répondrai aussi, c'est que nous, à l'Université de tous les savoirs, nous avons toujours favorisé, encouragé la dimension de la communication. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, Vous pouvez faire des choses très bien dans votre coin s'il n'y a pas de communication. Parce que la contrepartie de cet article, que je comprends qu'il puisse vous choquer, la contrepartie, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais ça existe, ça !» et qui nous contactent après. Ça ne m'intéresse pas particulièrement d'être surchargé de demandes. Mais par exemple, j'ai été très touché, à la suite de l'article du Parisien, de recevoir une demande extrêmement longue. Le type, il s'était tapé deux pages d'argumentaire d'un centre de formation professionnelle, d'apprentissage des industries de l'aéronautique, allant depuis l'apprentissage élémentaire jusqu'à la formation quasiment de technicien supérieur. Et bien, on voudrait bien que vous veniez chez nous pour parler de ça. Et c'était dans le journal. Donc ça, je défends absolument, si vous voulez, et j'endosse la responsabilité de ça. La troisième chose, c'est que c'est évident que le stéréotype qui se présente, c'est forcément, puisqu'on est dans un lycée, qu'on est tous des profs, c'est que font les profs, ils font des cours. Hein. Mais imaginez, si on disait, on peut imaginer un autre journal, par exemple, qui dirait, le ministère encourage, puisqu'on a une aide expérimentale, encourage des séminaires de formation au management de classe. Hein. Alors, vous râleriez encore plus, et je dirais à juste titre, parce que figurez-vous qu'il y a une... Ça existe aussi, cette tendance, aujourd'hui. Donc, entre cours sur l'autorité de tenue de classe et séminaire, c'est-à-dire, moi, je préfère l'expression de séminaire, si vous voulez, mais j'ai trop peur qu'on voit arriver, et non, ben, ça y est, maintenant, on va livrer les lycées au management... des ressources humaines et des élèves clients, quoi, de la sorte. Non, c'est pas ça. Donc, oui, je désamorce là, votre critique comme ça, hein, les trois, et donc, n'en soyez pas trop choqués. Ce que nous tenons toujours à faire, je vous le cache pas, en revanche, c'est que nous décourageons systématiquement les télévisions. Parce que là, je dirais que dans la presse écrite, on peut avoir des simplifications, mais qui, encore une fois, font partie des règles du genre, hein, parce qu'ils n'ont pas, 7000 signes pour écrire quelque chose. Mais le simplisme télévisuel, ça, vous ne nous verrez jamais arriver avec des équipes de télévision, ça c'est sûr. Même si vous regrettez, peut-être. Hein.
Oui, moi, si je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, d'abord pour saluer la présence parmi nous de l'auteur de l'article que vous venez de citer, qui est assise juste derrière vous, Madame Guillot, et pour lui donner ensuite la possibilité de s'exprimer sur le sujet. Je partage complètement ce qu'a dit Yves Michaud. J'irai même un petit peu plus loin. Je pense que les stéréotypes, l'imagerie éducation nationale qui est utilisée par les médias en général, va bien au-delà du miroir qui nous est renvoyé à nous. Moi, je suis frappé de voir le nombre de fois où on entend une expression comme « le ministre a dû revoir sa copie ». Ça et les avions cloués sur le tarmac, je veux dire, ça fait partie des clichés. Alors, je ne dis pas que les journalistes ne parlent que par clichés, mais ça serait pas resté pour celle qui est dans la salle. Mais c'est sûr que, la communication grand public passe par un certain nombre de clichés de ce type, et le trait partagé par tous les lecteurs d'un journal ou tous les spectateurs d'une télévision, c'est qu'ils ont tous à un moment ou à un autre été élèves, ils ont tous rendu des copies, ils ont tous eu des notes, et cette imagerie, elle est tellement partagée qu'elle est bien commode, finalement, c'est une culture commune. Alors bon, quand nous, on essaye de changer de culture, quand nous, on essaye de changer de mode de management, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de penser que peut-être on nous ramène en arrière. Or, je pense, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai très volontiers donné mon accord pour que le Parisien soit présent dans les deux séances du séminaire, c'est que je vois bien qu'il y a, dans le fait qu'on puisse renvoyer vers un public large le travail qu'on essaye de faire, le travail qu'on fait, c'est positif de toute façon. Moi, j'ai personnellement trouvé que l'article du Parisien était un juste reflet de ce que nous avons essayé de faire, même si les mots ne sont pas ceux que nous aurions employés, mais peut-être que c'est mieux comme ça, parce que nous, on aurait peut-être jargonné. Donc je crois que c'est important qu'il y ait une relation ouverte aux médias, et en même temps, je préfère infiniment qu'on puisse travailler comme ça, que ce soit avec le Parisien ou avec d'autres médias, plutôt que de n'entendre parler de l'école que à chaque fois qu'il y a un élève qui a agressé un professeur ou à chaque fois qu'il s'est passé un événement grave. Moi, j'ai vécu dans mon passé de proviseur dans cette même académie de Paris en 2002 quelque chose de vraiment très très violent Alors, il y a eu une violence interne dans mon établissement. D'ailleurs, ce qui est encore plus violent, c'est la manière dont il y a eu un déchaînement médiatique autour de ça, pour des raisons conjoncturelles. C'est-à-dire que ça crée du dégât lourd, et pour plusieurs années dans un établissement. Donc si on peut tisser avec la presse en général, les journalistes, la télévision, la radio, des relations d'échanges confiants et bien informés, je crois qu'on a fait un grand pas en avant. Madame, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ?
Attendez, oui, on va donner. Vous aurez besoin de deux en plus. Vous
regardez.
Les deux, voilà.
Donc voilà, c'est moi qui ai commis cet article. Je comprends tout à fait votre réticence sur le titre. J'ai un peu la même parce que j'ai pas forcément perçu ça comme un cours. Je l'ai pas non plus. Ce qui m'intéressait dans la démarche. Quand j'ai fait savoir à ma rédaction que j'y venais, et c'est aussi pour ça que ça les intéressait au départ, c'est que ça n'était pas un cours, et que moi je m'occupe d'éducation depuis maintenant 3 ans. J'ai besoin aussi de savoir ce qui se passe dans les établissements pour essayer d'en parler le plus honnêtement possible, à défaut d'objectivité totale, parce que ça j'y prétends pas. Alors après, ceci dit, voilà, sans me dédouaner, les titres, c'est pas nous qui les faisons. Il y a aussi des contraintes de place, de mots. Séminaire, c'est plus long que cours. Ensuite, il y a le côté, effectivement, il faut que ça parle au plus grand nombre. Séminaire, ça peut paraître abscon, etc. Donc voilà, il y a toutes sortes de dimensions au-dessus qui échappent un petit peu. Après, effectivement, c'est à nous de batailler tout le temps pour que, voilà. Ce qui nous semblait intéressant, c'était de parler de cette démarche. Puisqu'effectivement, dans le même temps, on peut nous accuser, et c'est vrai qu'on le fait aussi, de bondir dès qu'il y a l'un de vous qui se fait attaquer à coups de tringle à rideau. Et voilà, on essaye de ne pas faire que ça. Après, effectivement, la Voix Express, là aussi, c'est un exercice qui est fait tous les jours sur une rubrique différente. C'est décidé en conférence de rédaction le matin. Et voilà, bon, ça, c'est... Après, les gens, vous savez très bien... C'est votre ancien ministre qui disait ça, et là au moins il n'avait pas tort. Il y a autant de ministres de l'éducation que de citoyens en France. Et moi, quand je parle des sujets d'éducation en conférence de rédaction, je peux vous jurer qu'autour de la table, y compris chez les rédacteurs en chef, il y a à peu près autant d'avis que de personnes. Parce que tout le monde a un neveu, un cousin, un fils qui est à l'école, un neveu, un cousin qui est enseignant, etc. Et tout le monde a toujours un avis sur tout. Donc effectivement, aller demander à l'homme de la rue, c'est peut-être un peu périlleux en matière d'éducation. Mais bon, voilà, ce jour-là, c'était sur ce sujet-là. Et il s'agit juste de dire que vous faites aussi un petit peu des choses collectivement, même si c'est une petite collectivité.
Et je ne voudrais pas que ça empêche votre parole. Ma présence vous gêne un peu pour les échanges. Je ne voudrais pas que ça aille.
Il y avait madame aussi qui voulait prendre la parole. Je voulais juste en profiter pour rappeler comme... c'est important qu'on parle de ces initiatives je me souviens notamment de comme j'ai pu me sentir seul face à de très grosses difficultés de cours durant les premières années que j'ai connues au Blanc-Mesnil où on me répétait parfois que c'est uniquement le soin porté aux connaissances que nous construisons, aux cours que nous construisons, qui fait qu'un cours marche ou pas. Et j'ai commis des erreurs graves, j'ai subi des chahuts très graves, parce que je n'ai pas été du tout confronté à l'expérience de mes collègues à travers de telles formations de tenue de classe. Donc aujourd'hui, on puisse en parler. Notamment en Ile-de-France avec le Parisien, c'est une bonne chose parce que ça permet de montrer que c'est une priorité et on se sent moins seul. Excusez-moi.
Parce que justement, moi, je voulais rebondir sur la communication et le partage, justement, parce qu'en fait, moi, je suis là un peu par hasard. Je savais même pas que le séminaire existait, donc du coup, je me suis pas inscrite. Donc, j'ai pas assisté à la première séance et j'ai vu que ça existait parce que grâce au petit
l'ordinateur, enfin les affichages, là, alors, voilà, à l'écran, aux écrans d'affichage, je me suis dit, oh bah tiens, ça m'intéresse. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais m'incruster, en me disant peut-être que je vais m'en faire refouler, ce qui n'est visiblement pas le cas. Et donc du coup, pour dire qu'effectivement, on parlait de collectivité, etc., et je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est la communication. Et c'est vrai que quand on est un nouveau prof, ou prof intégrant un nouvel établissement, le fait de partager son expérience, ou de témoigner, ou de dire ce qu'on ressent, ou ce qu'on a entreaperçu au sein d'une classe, ou même, par exemple, par rapport à un élève, ben, c'est pas toujours évident. Et on n'a pas du tout de retour. Et parfois, on se sent presque isolé en se disant, mais comment, est-ce que ça m'arrive qu'à moi, ou alors... et ça, en termes de, je pense, action, et de... en termes de... comment dire... oui, enfin, d'action, et de trouver une sorte de... comment dire, de ligne collective, je pense que le partage, c'est quelque chose de très important. Voilà.
Mais moi, je veux bien continuer sur le même sujet. Ça rejoint aussi la première partie, là, sur les réflexions sur les pratiques avec les routines, les improvisations, les habitudes. Moi, je suis en EPS. Et j'avoue que, bon, on ne connaît pas cette espèce de vide que connaissent, j'ai l'impression, nos autres collègues dans les autres matières. La première chose, c'est qu'on commence très tôt à fonctionner en groupe, c'est-à-dire que l'histoire des profs de PS, c'est essentiellement une vie de groupe qui commence très jeune. Hein, donc la prise en main de groupe, c'est soit par le club, soit par des colos, soit par des choses comme ça. Donc ça, on le vit très rapidement. Ensuite, dans nos études, on est en stage très rapidement. On est avec des tuteurs. Et ensuite, en formation, on est toujours en stage. Et quand on arrive dans un établissement, on est pris en charge par l'équipe de profs de PS. Et il peut y avoir un tuteur référent. Grosso modo, le tuteur référent travaille avec tous les autres profs. C'est-à-dire que le stagiaire arrive avec tel référent et s'il veut voir des cours de gym alors que le référent est en basket, on lui dit « il n'y a pas de problème, tu viens dans mon cours ». Et cette espèce d'entourage et de portée qu'on a sur ces nouveaux arrivants, je pense que ça nous donne une certaine force de réaction. Et puis le retour est pratiquement immédiat. C'est-à-dire que le collègue va en cours. Et le cours d'après, on est tous ensemble parce qu'on est dans notre bocal isolé au sous-sol de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement sur un gymnase. Enfin, on vit entre profs de PS, beaucoup. Ici, on a la chance de rencontrer les autres enseignants, mais on vit véritablement en groupe. Et quand on est sur l'extérieur, on rencontre d'autres collègues, d'autres établissements. Donc les échanges de pratiques, on en parle très très souvent. On en parle tout de suite après le cours, on en parle avant le cours. Là, j'ai un collègue qui partait en cours qui me dit, se tapait la tête un petit peu en me disant « J'ai les deux activités, dans quelle ordre je fais, qu'est-ce que t'en penses, etc. » Donc c'est vrai que ça, on n'est pas parfait, mais on a une grosse solidarité par rapport à ça. Et c'est quand même... ça permet d'avancer beaucoup plus vite.
Ce qu'on peut appeler l'esprit d'équipe en EPS. Oui.
C'est pas toujours facile, hein. On n'a pas non plus tous les mêmes besoins, les mêmes envies, etc. Mais on y est plus ou moins obligé, hein, par un partage de matériel, par un partage de local, de rotation, etc. Et c'est vrai que ça nous oblige de toute façon à communiquer directement, à faire des retours très rapides et à fonctionner parce qu'il faut fonctionner. Donc voilà.
Merci.
Je ne voudrais pas vous la parole, mais juste rebondir parce que c'est ma collègue. Moi, je suis professeure de SVT. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que quand les collègues de PS viennent, par exemple, au pré-conseil, et parfois, on a des échanges par rapport aux élèves qui peuvent être complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ils ont, eux, des élèves dans l'action, ils n'ont pas forcément la même image de l'élève que nous, on peut avoir derrière sa chaise, enfin, sur sa chaise, derrière une table, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une vision très complémentaire. Et ça, dans un travail d'équipe, c'est intéressant. Parce qu'un élève qui va poser des difficultés dans telle ou telle matière, forcément, parce que c'est aussi un être humain, n'en posera pas dans d'autres. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir ces différents aspects. Voilà.
Alors, je voulais intervenir là-dessus. Je vais intervenir là-dessus parce que vous avez tout à fait raison. Je trouve ce que vous dites est absolument passionnant. Et ça recoupe une expérience que nous avons à l'Université de Tous les Savoirs, c'est pour les conférences dans les lycées. C'est que les chevilles ouvrières des conférences dans les lycées, ceux qui font appel à nous, quand ce n'est pas le proviseur, c'est très souvent aujourd'hui les profs de philo, bon, c'est pas généraliste, s'intéresse aux choses, les profs de SVT, et parfois, et assez souvent, les profs d'éducation physique et sportive. Donc ce audit recoupe exactement l'expérience qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a déjà dans les établissements des pratiques relativement transversales, mais qui se concentrent autour de certaines disciplines. Alors, SVT, c'est parce que ça pose des questions philosophiques, aussi des questions de société. Hein. Éducation physique et sportive, c'est parce que vous voyez vraiment les élèves d'une manière très transversale, ça c'est évident aussi. Et donc, et souvent, notamment dans les établissements à problème, c'est très souvent les profs d'éducation physique et sportive qui font appel à nous. Ça nous a beaucoup frappé. C'est eux qui ont souvent la vision la plus générale des élèves. Alors le problème, c'est que moi j'ai toujours été un grand admirateur de la pédagogie de l'EPS. Hein. Je fais encore de la gym actuellement, mais j'ai traversé tous les changements pédagogiques et en tant que philosophe, je me suis toujours dit, si on arrivait à enseigner aussi bien que l'éducation physique et sportive, on arriverait peut-être à faire quelque chose dans nos disciplines. Mais effectivement, pour vous, c'est un peu plus facile parce que vous avez affaire quand même à des performances et à des comportements qui sont un peu plus faciles à identifier, si vous voulez, qu'une réflexion historique ou une réflexion. C'est ça. Mais en même temps, je crois qu'il y a vraiment un modèle, là, vous l'avez dit, dans les pratiques, il y a vraiment des modèles à suivre. Et je vous dis, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit parce que ça recoupe une expérience que nous avons. Je n'en dis pas plus. Là.
Alors, j'en profite pour insister sur l'importance des conseils pédagogiques. Notre nouveau chef d'établissement cette année nous a dit qu'il trouvait que c'était tellement prioritaire que s'il fallait lâcher une classe pour assister à un conseil pédagogique, eh bien, il nous mettait le feu vert. Donc, ce qu'il recommande, c'est un conseil pédagogique entre deux conseils de classe. Donc, qu'on se réunisse par équipe. Et c'est vrai que pour certains collègues, ça paraît un peu beaucoup de réunions peut-être, et on a beaucoup d'absentéisme, alors même qu'on a le droit de lâcher nos classes sur l'heure, ce qui prouve bien que ce n'est pas une question éventuelle de fuir une responsabilité. Mais je pense que c'est extrêmement utile pour deux raisons. Si on parle d'un élève et qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'en cours d'éducation physique et sportive, il est motivé, travaille bien, etc., on peut s'appuyer là-dessus pour étendre sa motivation à d'autres disciplines. Et inversement, si on s'aperçoit que dans la plupart des matières, l'élève fait moins d'efforts qu'au trimestre précédent, eh bien, on peut s'appuyer là-dessus pour faire comprendre à l'élève qu'il y a un constat de plusieurs adultes autour de lui, de ce qu'il y a problème, et puis le forcer à ne pas se voiler la face sur ce qu'il y a problème et à chercher des solutions. On est plus fort au niveau de l'élève. Donc il y a vraiment une grande utilité, c'est vrai, à se réunir régulièrement. Par équipe, un peu plus que à chaque trimestre au conseil de classe. Je voulais passer à la deuxième question pour qu'on avance. Excusez-moi.
Les enfants qui n'est pas en difficulté scolaire et qui a besoin de s'épanouir en EPS. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est vrai. On a eu le cas encore au dernier. Écoutez, au dernier conseil de classe que j'ai fait, je me souviens du cas d'un élève qui méritait les encouragements et à qui on ne les lui a pas donnés parce qu'il avait boycotté des cours d'éducation physique. Et bon, on a pu, en plus, il était délégué, donc on a pu insister sur l'importance d'un esprit sain dans un corps sain. Hein, et que, après, ça nous amène dans des débats, mais par exemple, pour ce qui est du bulletin, j'ai toujours été contre que l'on coefficiente les matières dans les bulletins. Elles sont déjà coefficientées à l'examen. Et nous, on nous pousse à, en tout cas en lycée professionnel, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais on nous pousse à coefficienter aussi dans les bulletins. Et j'estime que par rapport... Déjà, c'est un mensonge, parce que l'honnête homme, au sens un peu humaniste du terme, c'est quelqu'un qui essaie de se développer dans toutes les dimensions. Et la musique, c'est extrêmement important. Les arts, c'est extrêmement important. Et évidemment, être à l'aise dans son corps, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus important paradoxalement, c'est vrai quand on considère les coefficients de l'EPS à l'examen. Je voulais passer à la deuxième question.
Non, je crois qu'on ne va pas suivre forcément.
Bonjour, moi je suis conseiller principal d'éducation, je n'étais pas là à la première séance, donc je vais peut-être me poser des questions assez simples. par rapport à l'autorité à l'école, mais aussi, je pense qu'on ne peut pas faire... D'abord, c'est très utile d'avoir un espèce de petit temps de réflexion comme nous avons aujourd'hui, hein, d'avoir du temps de recul, c'est indispensable. C'est ça qu'il faut aussi, parce que c'est qu'on a toujours la tête dans le travail. Je crois que, avant de parler d'autorité à son école, on ne peut pas ne pas, à un moment donné, se poser la question de l'autorité des adultes en général dans notre société sur l'évolution, la nouvelle évolution du mode de vie des adolescents qui se modifie énormément et dans notre société maintenant. Et donc, à partir de là, des questions simples à l'école, l'autorité pour quoi faire et quelle autorité, c'est vrai, parce que c'est pas si évident que ça. Et ensuite, comment faire mieux ensemble? On voit bien qu'à l'école, effectivement, un conseiller d'éducation, il va intervenir à la fois donc en dehors de la classe, mais il voit aussi les difficultés que peuvent avoir certains collègues. Quand je dis difficultés, ça peut être par exemple, quelqu'un a dit on s'est tous fait chahuter, que ce soit individuellement devant un élève, que ce soit devant la classe, et je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver tout le temps, y compris pour les gens qui ont le plus d'expérience, qui ont le plus réfléchi. On peut être à un moment donné dans sa vie fatigué, avoir des problèmes, et il faut passer au-delà. Mais ça implique aussi tous ensemble, effectivement, d'avoir, à partir de cette réflexion nécessaire, une pratique qui est simple. Dans la pratique, la réflexion ensemble, c'est important. Aussi, dans les actions à déterminer, qu'en fait-on ? Et il faut aussi avoir une déontologie en tant qu'adulte référent dans un établissement scolaire. Et que parfois, lorsque ça vous arrive de déborder un petit peu, hein, il faut reconnaître ces erreurs. Il y a le problème aussi, parfois, moi j'ai rencontré comme situation ambiguë souvent, d'avoir des collègues qui sont amis dans le quotidien, dans l'extérieur, et de découvrir que ses collègues avaient une pratique que je ne défendais pas toujours par rapport à leur relation aux adolescents ou aux élèves. C'est difficile l'intervention par rapport... Et quand j'ai une intervention, c'est une intervention d'aide aussi. Hein. Voilà. Et en tant que qu'adulte dans un établissement scolaire, il faut accepter, quand quelqu'un vous fait part, que vous ne voyez pas toujours, que vous-même, votre intervention a été... un petit peu limite, ou voilà, il faut l'accepter. Mais, voilà, définir l'autorité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'autorité éducative? À quoi ça sert? Et comment est-ce qu'on peut faire par rapport à quand même aux évolutions nouvelles des adolescents? On est tous ici à la fois éducateurs, mais aussi on est aussi parents. Voilà. J'ai dit, en étant un peu long.
D'accord, alors je pense par rapport à ce que vous dites sur notre capacité en tant qu'adulte à demander des excuses aussi quand on a débordé. C'est vrai qu'on s'aperçoit que non seulement on ne perd pas de l'autorité en faisant cela, mais on en gagne, hein, être capable, quand on sort de ses gonds, et ça nous arrive, hein, de dire à un élève... après lui avoir expliqué pourquoi il était sanctionné, etc. Ceci dit, effectivement, j'ai plus élevé la voix que j'aurais dû, et je vous prie de m'en excuser. Je m'aperçois que vraiment, ça ne retire pas de l'autorité que d'être capable de dire cela, au contraire. Donc justement, le deuxième point, alors en termes, c'est une partie seulement de l'autorité, hein, mais on reviendra sur l'autorité en général. On avait également une question sur la sanction ou la démagogie et l'abus des droits.
Vous pensez à ça vous va comme, ou est-ce qu'il y a d'autres choses C'est vous qui
d'accord.
Avez posé une question.
Je me souviens de votre intervention la dernière fois. Déjà, on avait évoqué la question des contrats que certains collègues font avec les élèves en début d'année pour établir les règles de classe. Et je vous disais qu'à titre personnel, je suis assez réservé par rapport à ces contrats. Et il me semble que les adolescents qui sont en train de se construire ont besoin de sentir que les règles leur préexistent et que l'enseignant va lui décider de ces règles, qu'il n'y a pas véritablement de contrat à passer avec eux. Et je trouve que pour ça, il y a une phrase qui est assez utile quand un élève conteste une décision, qui est de faire simplement la métaphore de l'arbitrage. Je suis arbitre dans mon cours. Pour le lui faire entendre. Alors, en ce qui concerne les sanctions pour en permettre l'efficacité dans un établissement, dernièrement, on s'est retrouvé dans un établissement où il y avait une certaine tension dans le personnel et visiblement des difficultés pour ce qui était de l'organisation des sanctions. Ça m'a conduit à réfléchir sur la question de l'équilibre nécessaire pour, par rapport aux sanctions en termes de d'un accord tacite hein, entre enseignants et direction, dans le cadre duquel il y aurait trois engagements tacites de chaque côté. Alors, pour ce qui est d'une efficacité des sanctions quand elles sont nécessaires, l'engagement du côté des enseignants, c'est déjà bien sûr de respecter les règles pédagogiques de base, soins portés aux documents, intérêt des cours, activités variées, et puis respect des élèves. Ensuite, très important, la progressivité des sanctions, ne pas exclure à la première incartade, ni réclamer une journée d'exclusion au premier bavardage. Enfin, traiter, c'est-à-dire établir des rapports qui soient individuels. Hein, quand nous faisons un rapport qui mentionne 6 élèves, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il est souvent plus efficace de cibler l'élève qui a été meneur dans un chahut que de vouloir sanctionner 4-5 élèves. Et puis, travailler avec les conseillers principaux d'éducation, voire les parents, sachant que la règle en général est que dans ce métier, par rapport à la partie purement éducation de notre travail, plus nous cherchons à nous ménager, plus au final nous sommes fatigués, parce que c'est quand les problèmes ne sont pas traités que les classes deviennent véritablement les plus usantes. Voilà. Et du côté de la direction, donc je verrai également trois engagements tacites par rapport aux sanctions. Le premier, c'est la réactivité, c'est-à-dire de pouvoir, à partir du moment où les enseignants ont respecté ces engagements, la direction se retrouve avec un très petit nombre de cas qui ont passé les filets et où il est nécessaire de sanctionner. Donc du coup, on peut attendre une certaine réactivité. Le deuxième point très important, c'est une évolution des sanctions, c'est-à-dire quand un élève, dans un délai court, commet deux fois une transgression assez grave, qu'il n'obtienne pas la même sanction, qu'on puisse monter un cran au-dessus. Alors bon, bah pour ça, on a un panel, hein, l'exclusion, l'avertissement, la commission de vie scolaire, jusqu'au conseil de discipline. Et je dois dire que là, cette année, je suis professeur principal d'une classe qui est très remuante, une seconde professionnelle de vente. Et nous sommes parvenus à mettre la classe au travail, notamment, enfin je pense, grâce au bon travail qu'on a pu mener en collaboration entre professeurs et puis avec la conseillère principale d'éducation, mais aussi parce que nous avons pu cette année obtenir cette évolution des sanctions quand nous en avons eu besoin, notamment par rapport à une élève qui vraiment rendait le cours impossible alors que la majorité des élèves viennent en cours pour travailler, c'est-à-dire qu'elle perturbait en appelant ses camarades d'un bout à l'autre, en se levant pour aller mettre un coup de pied à un camarade par exemple, et on a vraiment tout épuisé avec elle, c'est-à-dire que par rapport à elle, quelque part nous étions en échec, encore que je pense que le conseil de discipline, quand il intervient, parce que vraiment on a tout épuisé et qu'on y arrive, peut être aussi un temps d'éducation. Et son conseil de discipline a montré que chez l'élève, il y avait eu enfin une vraie réaction. C'est-à-dire qu'elle a pleuré, elle a vraiment reconnu ses torts. Et je pense qu'on a réussi, enfin le chef d'établissement a réussi à la rescolariser très rapidement. Je pense que ça peut lui permettre un nouveau départ. Alors, bon, c'est un autre établissement, c'est un peu plus loin pour elle, elle a plus de transport, donc il y a des conséquences. Je pense que ça peut être pour elle l'occasion d'un nouveau départ. En tout cas, on a grâce à cela sauvé la classe. Et puis, dernier engagement tacite qu'on peut attendre donc, du côté de la direction, c'est une certaine solennité des rappels à l'ordre. Alors, M. Michaud parlait de l'importance du solennel en matière de sanctions, c'est-à-dire que quand un élève se retrouve dans le bureau du chef d'établissement parce qu'il a commis un certain nombre de transgressions graves, eh bien, ils comprennent qu'il n'est pas là pour prendre le thé. Voilà. Donc cet équilibre, et on constate souvent que dans un établissement, quand il y a beaucoup de situations très difficiles, c'est en partie parce que cela pêche d'un côté ou de l'autre au niveau de ce type d'engagement. Excusez-moi.
Je suis assez d'accord donc, avec les engagements à proposer.
Un engagement de la part des enseignants, surtout au collège. Je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que le professeur s'engage à avoir une sorte d'égalité de traitement en matière de sanctions. À savoir qu'il faut porter la même sanction qu'on ait à faire à un bon élève ou un élève en difficulté, difficile ou pénible. Donc par exemple, un exemple concret, un oubli de livre, eh bien, c'est telle punition. Et cet oubli de livre, eh bien, que ce soit X, Y ou Z, parce que l'élève a vraiment une... Surtout quand ils sont adolescents au collège, puisque moi je suis au collège, ils ont vraiment cette notion de justice qui est très très grande. Et si jamais, par exemple, le professeur est défaillant par rapport à ça, eh bien, ils ne nous font pas de cadeau. Voilà, entre guillemets. Et ça, je pense que l'autorité, c'est aussi une forme d'engagement à avoir une sorte de code, d'éthique. Et si nous, on leur impose un règlement, eh bien, il faut que nous-mêmes, on soit cohérents avec nos sanctions, nos exigences. Voilà, juste. Donc, pour moi, je rajouterais dans cet engagement des enseignants l'égalité de traitement, qui me paraît essentielle.
Les élèves, ils sont effectivement très sensibles.
Je peux te donner la parole ?
Bien sûr.
Bon, comme il y a deux colonnes, je me sens un petit peu interpellé aussi sur les engagements. Une première chose, la remarque peut paraître formelle, mais elle est importante. En mettant dans la même parenthèse exclusion, avertissement, commission et conseil, vous acceptez de mélanger des sanctions et des procédures. Et ce n'est pas juste. Un conseil de discipline, ce n'est pas une sanction. Un conseil de discipline, c'est une instance. Et elle peut prononcer des sanctions et des sanctions de registre différents. Ce n'est pas parce qu'un conseil de discipline qu'il y a nécessairement exclusion définitive. Et dans l'esprit de trop de gens, y compris acteurs de l'éducation, on confond complètement conseil de discipline et exclusion définitive. C'est dommage, parce que comme vous l'avez dit fort justement, un conseil de discipline peut être une occasion de solennellement prendre une décision collégiale, parce que rien n'est plus collégial qu'un conseil de discipline. Je rappelle que l'autre instance compétente en matière de discipline dans l'établissement, c'est le chef d'établissement. Il n'y en a pas d'autre. La commission de vie scolaire, c'est une alternative, c'est une instance informelle, non décisionnelle. Il n'y a que deux instances disciplinaires dans l'établissement scolaire. C'est le chef d'établissement, pour les sanctions d'un certain registre, c'est-à-dire inférieur à l'exclusion de 8 jours, et le conseil de discipline pour toutes les autres, y compris celles qui sont inférieures à l'exclusion de 8 jours, puisque qui peut le plus, peut le moins. Donc ça me paraît important de distinguer bien les choses, parce que du coup, on identifie clairement quel est le lieu de décision, quelle est l'instance, le chef d'établissement ou le conseil de discipline, solitaire ou collégial, et quelle est la gradation des sanctions, comme vous l'avez rappelé, gradation qui est fixée par la loi. On ne l'invente pas dans les établissements, l'avertissement, il manque le blâme, l'exclusion temporaire, l'exclusion définitive, ça c'est la gradation des sanctions. Et effectivement, il est souhaitable, je suis assez d'accord sur l'idée d'engagement, qu'elle soit logiquement suivie. Ceci étant dit, sur ce point-là, pour rester sur la gradation des sanctions, je suis d'accord, mais avec une prudence à prendre, sur le caractère non systématique ou non mécanique de l'application des engagements en question. Je suis confronté quelquefois, y compris ici, on s'explique généralement sans trop de difficultés, à une demande explicite ou implicite d'établir une sorte de code pénal interne, c'est-à-dire au-delà de temps d'absence, un avertissement, au-delà de temps d'avertissement, une exclusion, au-delà de temps d'exclusion, un conseil de discipline, par exemple. Je suis fondamentalement pas d'accord avec ça, et je crois qu'il faut absolument qu'on garde l'idée que à côté d'une logique de gradation que vous proposez, que chaque situation est un cas particulier, qu'il y a toujours des tenants et des aboutissants, qu'il y a toujours des causes, qu'il y a toujours un environnement, un contexte, et qu'on ne peut pas appliquer mécaniquement un code pénal. D'ailleurs, même le code pénal ne s'applique pas mécaniquement. Sinon, les sanctions, on n'aurait même pas besoin de réunir des juges. Il suffirait d'appuyer sur une touche ordinateur pour prononcer des peines. Deuxième remarque. Elle porte sur la réactivité. Bon, j'ai la vanité de penser que je suis un chef d'établissement réactif, donc je suis à l'aise avec l'idée d'engagement de la direction dans ce domaine-là. Mais là aussi, je dis prudence. Parce que y a une pression, surtout collective, parfois individuelle, pour qu'effectivement, tac-tac, quoi, ça soit le retour de bâton immédiat, que la sanction soit immédiate, qu'il n'y ait pas la moindre latence entre le moment où se produit le fait, surtout s'il est grave, et le moment où se prend la sanction. Or, c'est parfaitement contradictoire avec le respect élémentaire des principes fondamentaux du droit. Et dans les principes fondamentaux du droit, il y a d'abord le temps nécessaire à l'investigation, c'est-à-dire il faut s'assurer des faits. Il faut s'assurer de l'imputabilité des faits, comme disaient les magistrats. Est-ce que c'est bien un tel qui a fait ? Il faut s'assurer des circonstances, il faut prendre le temps de recueillir des témoignages et les recueillir de façon méthodique, rigoureuse et fiable. Et il y a un autre principe qui me paraît fondamental, c'est le principe du contradictoire. Et quelquefois, quand on se donne le temps d'entendre l'élève, moi j'ai donné comme consigne aux conseillers principaux d'éducation de la maison, c'est pas Bruno Ponzato qui m'en démentira, que je ne prends jamais de sanction sans que l'élève ait été préalablement entendu. Non pas que je veux absolument que l'élève me donne sa version des faits qui soit contraire au professeur et puis qui mette le professeur en cause, mais parce que tout simplement c'est un principe élémentaire du droit. Et que si s'est passé quelque chose juste avant le dérapage verbal de l'élève, c'est quand même important qu'on le sache. Et qu'il faut avoir sa version des faits, ne serait-ce que de savoir s'il reconnaît ou ne reconnaît pas les faits. Et s'il ne les reconnaît pas, pourquoi ? Tout ça, ça prend du temps. Et dans un établissement de 600, 800, 1300, 1900 élèves, le temps n'est pas nécessairement immédiatement disponible. Moi, je crois que le souci de la justice et de l'équité nécessite aussi qu'on sache donner le temps. Alors, à côté de ça, il y a l'inconvénient. C'est vrai que quelquefois, on prend une sanction, bon, pour peu que le professeur ait un peu tardé à faire son rapport, que le chef d'établissement n'ait pas pu immédiatement entendre l'élève, qu'il y ait eu une période de vacances ou un week-end, etc. Et puis on peut avoir l'impression que la sanction elle arrive à un moment où plus personne ne s'intéresse à la question. Bon, c'est regrettable. Donc je suis d'accord avec l'idée de réactivité. Je pense que c'est important que l'institution soit réactive, surtout quand il y a des mises en cause graves et quand il y a des incidents graves. Mais ça ne doit pas faire oublier qu'il y a des précautions à prendre. Et enfin, dernier engagement, je les aurais commentés comme ça tous les trois, solennité des rapports à l'ordre, je suis aussi d'accord, très d'accord même, je crois que j'y mets pas mal de solennité, y compris dans les instances, un conseil de discipline, moi j'organise ça de façon bien différente d'un tribunal, mais en même temps avec ce qu'il faut de solennité pour qu'on soit assuré que personne n'oublie ce qui s'est passé ce jour-là. Convocation dans le bureau du proviseur, c'est deux, surtout ici avec l'architecture, la taille du bureau, c'est quand même quelque chose qui compte. Mais la solennité, c'est aussi quelque chose qu'il faut utiliser avec discernement. Alors je ne pense pas tellement là à la pratique de la direction, mais à une autre instance qui maintenant s'est multipliée, qui est le rappel à la loi par un fonctionnaire d'autorité, un officier de police judiciaire. Vous savez que en alternative à l'intervention du procureur de la République, c'est-à-dire à une suite pénale avec procédure lourde et traces éventuelles au casier judiciaire, etc., on a mis en place pour des délits mineurs, par convention entre l'éducation nationale, la police et la justice, des rappels à la loi. Moi j'en ai vécu quelques-uns, y compris très récemment, hein. Donc comme je l'ai déjà dit la dernière fois, nous au village aussi l'on a de beaux assassinats, Hélène Boucher, on a aussi des problèmes de vie scolaire parfois, qui ont débouché sur des rappels à la loi. Et moi ce qui m'a beaucoup frappé, j'en ai vécu deux cette année, je demande à madame de pas trop précise dans un éventuel retour de l'article parce que j'ai beaucoup d'estime pour mes collègues du commissariat du 20e et je voudrais pas avoir d'ennui avec eux, mais je suis sorti insatisfait des deux. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il y avait ce qu'il fallait de solennité. Vous imaginez, le gamin s'est trouvé dans un bureau de commissaire de police avec un commissaire divisionnaire ou commissaire principal, un chef d'établissement, deux fonctionnaires de la mission de prévention et de communication, son père ou sa mère. La solennité y est. Sauf que le degré d'information et le degré de connaissance du détail du contexte n'est pas le même entre un éducateur et un fonctionnaire de police, et que dans un cas j'ai trouvé qu'il y avait eu deux ou trois louches de trop, en particulier en termes de comment dire sévérité, hein, discours de sévérité et solennité. Et dans l'autre cas, il y avait eu deux ou trois louches pas assez. Pour la petite histoire, le commissaire divisionnaire passionné de cinéma a découvert que le papa était lui-même dans le monde du cinéma. Ils se sont mis à parler de cinéma tous les deux. On n'a pratiquement pas parlé de ce qui s'était passé au lycée. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas facile de trouver le ton juste. Mais que bon, c'est bien de ça qu'il s'agit.
Bien sûr, et c'est tout l'aspect éminemment humain de nos métiers. Et il reste beaucoup d'arbitrage, justement. Sinon, effectivement, on pourrait remplacer nos prises de décision par des machines. Et il vaut mieux de temps en temps une erreur d'arbitrage que pas d'arbitrage. Sur la question de la réactivité, je voulais juste repréciser, je pensais par exemple à ce qui nous est arrivé il y a quelques années où un collègue avait dit, un collègue s'était fait entendre par une élève, donc mon collègue de mathématiques dans la classe dont j'étais professeur principal, va te faire foutre, sale connard. Et au bout d'un mois et demi, le rapport était encore sur le bureau de l'approviseur de l'époque. J'ai dû faire une lettre officielle pour réclamer qu'il se passe quelque chose en menaçant d'envoyer une copie de cette lettre au rectorat. Et l'élève a obtenu un conseil de discipline parfaitement illégal un mois et demi après les faits. Enfin voilà, c'était là vraiment ça n'avait pas été tac-tac comme vous dites. Et bien sûr qu'il est très important d'entendre l'élève auparavant. Je pense aussi à ce cas où un collègue avait réclamé le conseil de discipline pour un élève qui avait jeté ses affaires par la fenêtre. Et on s'était aperçu, le chef d'établissement s'était aperçu que, en discutant avec l'élève, que, en fait, mon collègue avait dit à l'élève de sortir de la salle, l'élève avait refusé de sortir, et mon collègue avait dit à l'élève, ah oui, il avait pris les affaires de l'élève et il les avait jetées par la fenêtre. L'élève ne s'est pas démonté, il s'est levé, et il a pris les affaires de mon collègue et il les a jetées par la fenêtre. Et bien sûr, on était très mal pour déclencher un conseil de discipline à partir du moment où le collègue avait commis une erreur. C'est important de savoir garder la maîtrise de nous-mêmes. C'est non seulement important pour ce qui est de l'exemple en tant qu'éducateur que nous montrons vis-à-vis des élèves, mais c'est important aussi pour la suite. C'est-à-dire que si nous voulons pouvoir sanctionner l'élève, il faut rester soi-même irréprochable. Par rapport à ce que vous disiez en termes de rappel à la loi, ça me faisait penser à la seule fois où j'ai eu affaire au commissariat dans ma carrière. C'était suite à ce qu'un élève était venu en fin d'heure récupérer son téléphone portable que j'avais confisqué. Alors bon, j'ai évolué par rapport à ma pratique en ce qui concerne les téléphones portables, mais à l'époque, je les confisquais et puis je les amenais ensuite dans le bureau du chef d'établissement. Et il est venu à la fin de l'heure et il m'a bousculé en me disant « Vas-y, maintenant, tu me rends mon portable ». Donc, à côté des sanctions que j'ai pu demander dans l'établissement, je suis allé au commissariat le soir. Et je savais bien que si je portais plainte, ma plainte serait reçue, bousculade d'enseignant. J'ai choisi de déposer une main courante. C'est vrai que là aussi je vous rejoins sur l'aspect éminemment humain de notre métier. On a à sentir si un élève est en grande difficulté, très impressionnable, ou si, comme là c'était le cas, on a un gaillard qui est prêt à beaucoup de transgressions, y compris à se mettre en danger lui-même et a besoin d'un vrai stop. Et en l'occurrence, il a été convoqué au commissariat dans une séance qui n'a pas manqué d'être solennelle. Je n'avais plus le même élève avant et après. J'ai senti vraiment l'utilité. Donc je crois aussi en ces en ces possibilités du rappel à la loi. Par rapport à la sanction, je me souviens récemment d'un élève qui a des soucis avec la justice. Son casier judiciaire n'est plus vierge parce qu'il est majeur. Et que j'ai sanctionné, qui est donc en lui parlant, bon, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, calmement, avec respect, mais en lui annonçant que je le sanctionnais par rapport à son comportement en cours et à sa façon de me parler. La séance suivante, c'était une séance de rédaction, et il est venu en fin d'heure me poser ce que j'appelle une question besoin d'amour, c'est-à-dire ces fausses questions d'élèves où on sent que quelque part il cherche à établir du lien avec nous. C'est-à-dire qu'il m'a demandé, monsieur, j'ai fait un dialogue dans la rédaction, ça va ? Bon, évidemment que compte tenu du sujet de la rédaction, on pouvait faire un dialogue à l'intérieur. J'ai senti qu'il cherchait à me montrer que quelque part le lien restait entre nous, et vraiment la sanction auprès d'un élève, quand elle est juste, quand elle est décidée calmement, eh bien ça ne rompt pas le lien avec l'élève, bien au contraire. Pour ça, je voulais aussi souligner le risque qu'il y a dans les classes plutôt sympas. Il y a un risque particulier dans les classes sympas qui est que nous nous relâchons, qui est que on menace beaucoup parfois quand il y a bavardage sans passer. Oups, excusez-moi, mon micro. On menace beaucoup en ce qui concerne le bavardage sans jamais passer à la sanction. Et on s'aperçoit parfois qu'avec certaines classes sympas, on a encore plus perdu la voix en fin d'heure qu'avec des classes plus difficiles. Alors évidemment, un élève qui est insolent, bon, c'est facile à trancher, on sanctionne. Bon, des élèves qui sont sympas, on hésite parfois. Il y a aussi cette limite qu'on se met soi-même au passage à l'acte en matière de sanctions, qui est le temps qui passe. Je m'aperçois, oh, il reste plus qu'un quart d'heure de cours, c'est bon, je vais pas mettre une sanction dans le dernier quart d'heure, alors que c'est une classe sympa. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit souvent qu'on se fait piéger et qu'une classe qui était sympa devient une classe très difficile à gérer, et dans laquelle les connaissances passent moins vite, hein, à cause de ce handicap, parce qu'on a laissé le bavardage enflé. Donc là aussi, ça réclame un certain courage pédagogique de passer à l'acte après avoir averti, en utilisant éventuellement ce dont je parlais la dernière fois, l'encadrer au tableau pour que l'élève sente bien que la menace est concrète, donc en matière de sanctions. Pour ce qui est aussi de cette question où dans la tête de beaucoup d'élèves il y a les droits et il n'y a plus les devoirs, j'ai ajouté à mon panel de sanctions de base, donc comme je vous disais, hein, en général, je réclame une lettre d'excuse plus quelques exercices de français choisis pour être faciles. Le but, c'est que l'élève ait fait la démarche. J'ai toujours mon dossier discipline avec les fiches incidents, les exercices plutôt faciles sous le coude si j'en ai besoin. J'ai ajouté un petit paragraphe, je leur dis, de 4-5 lignes, par exemple... Pourquoi ne faut-il pas bavarder ? Ça aide l'élève à se responsabiliser lui-même. C'est une méthode dont j'avais entendu parler au départ, qui était utilisée par les communistes chinois. Alors j'espère que c'est pour une cause un peu plus juste que je l'utilise. En tout cas, j'ai remarqué que ça a aidé à donner du sens à la sanction. Donc voilà, maintenant, je donne deux exercices faciles, encore une fois, de français. Le but, c'est qu'ils aient fait la démarche. Plus je demande une lettre d'excuse, plus un petit paragraphe, par exemple, pourquoi ne faut-il pas bavarder, et j'explique bien à l'élève qu'il faut qu'il me rende cela pour pouvoir réintégrer mon cours, hein, de manière à ce qu'il ne revienne pas comme si de rien n'était. Et bon, on s'aperçoit que bien souvent ils le font, hein, et ils ont dû faire une démarche pour pouvoir revenir au cours. Un dernier point par rapport à cette question, c'est l'utilité qu'il y a d'additionner notre autorité à celle des parents. d'avoir le réflexe, dès que possible, de se procurer les téléphones portables des parents pour pouvoir squeezer l'élève en appelant à la maison, parce que on a parfois quelques petits malins qui répondent à la place de leurs parents, et puis on contacte plus facilement les parents quand on a le téléphone portable. Ça peut être efficace aussi, hein, d'avoir une saine pression à la maison. Je pense à une gamine qui est un peu en crise d'adolescence là, qui m'a dit avec votre remarque à la con, bon voilà, en appelant la maman le soir même, bon, j'ai senti qu'il y avait vraiment un changement de comportement, de ton de l'élève le lendemain. Donc c'est important, même quand on n'est pas professeur principal d'une classe, de s'être procuré. Je serais vraiment pour un échange rapide de toutes les coordonnées des parents, pour pouvoir être très réactif, hein, parce que bon, il faut bien penser que nos conseillers principaux d'éducation sont souvent saturés de travail, et puis les professeurs principaux sont souvent saturés de travail, et parfois bon bah c'est efficace, hein, quand on peut gérer soi-même, en plus ça permet de le faire plus rapidement. Un dernier point aussi par rapport aux parents. Alors, je serais intéressé que vous nous fassiez part de ce que vous pensez de la mesure conservatoire. Je la trouve assez puissamment efficace, et je pense aussi à une difficulté qu'on a eue dans la classe dont je suis professeur principal, ou sur le cours d'une collègue qui manque peut-être un peu d'autorité, eh bien, bon, les élèves se sont carrément levés en cours. Enfin, bon, c'était vraiment la fête, entre guillemets. Grâce à la CPE, la fête s'est terminée, et puis on a pu donc être assez réactifs. Et il y avait un certain nombre de parents que nous avions du mal à voir. Chez certains parents, tant que l'école s'occupe de leur enfant, bon bah tout va bien, hein, bon. Et le chef d'établissement a pris une mesure conservatoire, c'est-à-dire que les élèves n'avaient plus le droit de revenir en cours tant que les parents n'avaient pas été vus. Ça a surpris. La classe s'est vraiment calmée dans le mois qui suit. Les élèves concernés vraiment se sont calmés. Alors voilà, enfin, je voulais vous retourner aussi la question par rapport à cette mesure, ce que vous en pensez.
D'accord. Ouais. Moi, j'arrive d'un lycée pro là, donc c'est une mesure conservatoire qui est prise assez fréquemment, et le résultat, c'est quand même qu'on se retrouve avec des élèves qui viennent pas parfois pendant 4 semaines d'affilée. Et je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est aussi une façon de vider les élèves et de les pousser à la démission. Parce que les parents s'y intéressent pas, parce que eux quelque part, enfin pour certains, pas tous les élèves, il y a des élèves avec qui ça fonctionne, mais certains ne reviennent pas, ça les arrange, et puis en fin de compte ils font ce qu'ils ont à faire dehors, et au bout de 4 semaines ils posent leur démission et ils apparaissent pas dans les chiffres, dans les statistiques de réussite au CAP ou au bac pro, et ça arrange tout le monde en fait. Moi je trouve que c'est une mesure, cette mesure conservatoire, elle est peut-être utile parfois, mais faut pas que ça devienne le truc qui permet de se débarrasser des élèves dont on veut pas, et puis basta, et voilà. Enfin,
oui, oui,
c'est mon opinion. Mais...
On revient sur l'importance de l'arbitrage humain par rapport à une prise de décision. En l'occurrence, c'est vrai qu'on savait que les parents étaient quand même derrière les élèves concernés, et on savait qu'ils viendraient le lendemain. Et c'est certainement, c'est un, comme tous les outils puissants, c'est à manier avec doigté, puisqu'on travaille avec de l'humain, et le but, c'est toujours la réussite de tous les élèves. Hein.
Je réponds sur la question, puisqu'on est resté sur... alors, pour préciser, vous avez dit, je suis vraiment formaliste et embêtant, mais mesure conservatoire, ça n'existe pas, c'est mesure d'exclusion à titre conservatoire. C'est-à-dire que quand on prend une mesure d'exclusion à titre de sanction, parce que c'est une exclusion temporaire ou une exclusion définitive, c'est une mesure qui est prise à titre de sanction. Quand on prend une mesure d'exclusion à titre conservatoire et qu'on la notifie, on l'accompagne généralement de la mention que cette mesure n'a pas le caractère de sanction. Alors, son nom l'indique bien. Quel est son objectif? Eh bien, son objectif, c'est de garantir quelque chose. C'est de garantir, en l'occurrence, sérénité ou sécurité dans l'établissement. Et les textes sont précis là-dessus. Hein. On est encadré par une réglementation assez précise en termes de sanctions et de mesures disciplinaires. Les textes disent bien que le chef d'établissement peut prendre une mesure d'exclusion à titre conservatoire en cas de danger avéré, c'est-à-dire si le maintien dans l'établissement d'un élève qui a commis un acte grave, si son comportement ou sa façon de se tenir comporte des risques pour lui-même ou pour l'établissement, on peut prendre une mesure à titre de conservatoire, c'est-à-dire jusqu'à la date de réunion du conseil de discipline ou jusqu'à la date de la prise de sanction par le chef d'établissement, l'élève n'est pas autorisé à rentrer en classe. C'est ça très exactement une mesure d'exclusion à titre conservatoire. Et dans la mesure où on est dans un cadre de droit, hein, rappelons-le, c'est un petit peu notre honneur de républicain d'être dans un état de droit, dans la mesure où c'est encadré précisément, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus en abuser. Moi, j'ai souvent été au cours de ma carrière soumis à la pression collective des enseignants, y compris jusqu'à menacer eux d'exercer leur droit de retrait, un thème qui doit vous évoquer quelque chose par rapport à l'actualité, si je ne prenais pas la mesure d'exclure immédiatement l'élève. C'est-à-dire que, traduit dans leur esprit, ça voulait dire que la mesure d'exclusion à titre conservatoire, c'était on le vire tout de suite. On ne va pas attendre 15 jours que le conseil de discipline ait eu le temps de se réunir et de statuer, on ne veut plus le voir tout de suite. Si c'est ça la seule et unique justification de la mesure d'exclusion à titre conservatoire, elle est clairement entachée d'illégalité. Je le dis tout net. Hein. Si l'élève ne représente pas de danger, il a commis un acte grave, sa présence est désagréable, certes, elle est mal acceptée, certes. Alors peut-être qu'elle est tellement mal acceptée que ça peut devenir un danger pour l'établissement et que d'une certaine manière on va se servir de cet artifice pour juger préférable et en convaincre les parents qu'ils ne viennent pas jusqu'à la date de la réunion du conseil de discipline, mais en droit, cette mesure ne se justifie pas pleinement. Voilà, alors maintenant par rapport à des pratiques un peu particulière, je ne sais pas comment dire, un peu différente, qui consiste à dire, pour réussir à établir un dialogue avec la famille, il faut dire, ben, l'élève ne pourra pas rentrer en classe tant que, bon, je pense que ça, le chef d'établissement, dans un contexte local particulier, peut-être trouver que c'est une bonne réponse, mais bon, mes collègues savent bien, même si je suis seul de la catégorie ici cet après-midi, qu'à partir du moment où on fait quelque chose, dans l'état où, le contexte procédurier dans lequel on est maintenant engagé, parce que la société a évolué comme ça, c'est une chose, hein, on peut le déplorer, pas le déplorer, trouver ça bien, trouver pas ça bien, en tout cas, ça fait certainement plaisir aux avocats, à partir du moment où on prend une mesure qui peut être considérée comme entachée d'illégalité, on s'expose à des difficultés. Et je pense qu'il faut que, collectivement, les enseignants, les personnels d'éducation et les personnels de direction soient bien au fait de l'évolution de la législation, de la jurisprudence, pour qu'on comprenne bien que certaines décisions ne peuvent pas se prendre simplement parce que collectivement on pense que c'est la meilleure. Il faut qu'elles se prennent collectivement parce que c'est la décision qui correspond exactement au cadre juridique dans lequel nous travaillons.
Alors, tout à fait d'accord avec la notion du contexte local particulier, hein, et certainement, enfin, j'en parlais la dernière fois, mais nous travaillons dans des établissements qui sont très différents. Je voudrais quand même regretter que le droit aujourd'hui ne tient pas compte d'un problème que nous rencontrons souvent dans les cours, parce que c'est vrai qu'on insiste souvent sur la notion de danger physique. Et nous sommes finalement, heureusement, très très rarement confrontés aux dangers physiques, mais, et je repense à l'élève là dans la classe dont je suis professeur principal, nous sommes de plus en plus confrontés à des élèves qui empêchent les autres de travailler et qui empêchent la transmission des connaissances, bien qu'on en passe par, et c'est nécessaire de le faire, on en passe par toute l'échelle des sanctions, on voit les parents, on essaie vraiment de tout faire, on mouille la chemise pour coacher l'élève, pour essayer de le remotiver. Et je sais que chez certains chefs d'établissement, alors heureusement ça n'est plus le cas là, avec le chef d'établissement cette année qui a à la fois vraiment un profond humanisme et en même temps il a cette préoccupation du fonctionnement des cours quand même et de la majorité des élèves qui viennent là pour travailler et pour réussir. Si on regarde le droit en lui-même, il y a une faille là, parce qu'un conseil de discipline finalement, si on regarde bien dans les textes, c'est plutôt ça, c'est un fait très grave et on manque un peu d'outils, je dirais, juridiques par rapport à ce problème de l'élève qui simplement va appeler ses camarades d'un bout à l'autre, se lever pour sans commettre l'acte très très grave, mais qui finalement risquerait de conduire une classe à un taux de réussite à l'examen catastrophique, plus à des crises de nerfs chez nous enseignants, ce qui m'apparaît grave aussi, hein, nous travaillons. Et là, à mon avis, on a un petit problème juridique. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'en même temps, il faut pouvoir protéger les élèves. Mais je voudrais souligner ici ce qui m'apparaît être un vide par rapport à la réalité actuelle.
Je suis complètement d'accord avec vous.
Justement, j'aimerais bien vous avoir votre réponse.
Qu'on puisse à un moment avoir le sentiment de s'opposer par rapport à ces réalités-là. Mais je vais mettre quand même une nuance de plus dans le sens de c'est pas si simple, et c'est encore plus compliqué que ça. C'est que actuellement, les effets de l'exclusion pour raisons disciplinaires, qu'elles soient temporaires d'ailleurs ou définitives, sont devenus tels parce que les conseils de discipline se sont multipliés. J'ai plus les chiffres, mais c'est une préoccupation constante pour une académie comme Paris de voir le nombre de conseils de discipline et le nombre d'élèves, le nombre d'exclusions définitives par conseil de discipline et le nombre d'élèves à réaffecter augmenter chaque année. Les exclusions temporaires, surtout dans des périodes d'évaluation, période de conseil de classe, période qui précède des vacances sont nombreuses. Et on est maintenant, ça c'est nouveau, c'est pas complètement, mais ça prend des formes fortes, interpellé par les élus, je pense aux mairies d'arrondissement, par exemple à Paris, aux personnes qui travaillent autour de la réussite éducative, ou qui travaillent autour de la politique de la ville, et qui disent, mais en réalité c'est vous, l'éducation nationale, et là, dans le « vous », je me mets complètement, hein, moi, mes collègues principaux, etc., c'est vous qui êtes responsable de l'état d'abandon dans lequel sont les élèves, parce qu'à force de les exclure, parce qu'ils ne sont pas conformes à ce que vous voulez qu'ils soient, et pour protéger ceux qui, eux, sont conformes, vous excluez, et vous livrez à la rue je veux dire simplement qu'il faut bien entendre ça, et quand un élu vous envoie ça dans les dents, il faut savoir comment répondre, hein, parce que quelque part, protéger le groupe par l'exclusion du perturbateur, c'est certainement régler le problème du groupe, c'est sûrement pas régler le problème du perturbateur. Donc non seulement on est démunis juridiquement, comme vous le soulignez, mais je dirais qu'au-delà, sur le plan éducatif, il y a un vrai problème. Alors bon, ceci étant dit, moi je pense que, déjà à un premier niveau, il n'y a rien qui interdise de sanctionner, avec tout l'arsenal qu'on connaît et qu'on peut enrichir de mesures d'accompagnement, de sanctionner des accumulations de comportements perturbateurs. Moi, je recours assez facilement à cette expression, hein, accumulation de retard et d'absence injustifiée, accumulation de comportements perturbateurs en classe, même si ce n'est pas un fait grave, c'est une manière de créer du désordre qui peut tout à fait être sanctionné. Ceci étant dit, c'est vrai que le seuil de tolérance est différent pour chacun, et puis que chaque professeur peut voir ça de manière personnelle. Bon, après, il y a place pour un débat collectif aussi, pour dire jusqu'où doit-on supporter l'élève instable, agité, qui se lève, qui se remue, qui jette des papiers, qui mâche un chewing-gum, qui échange avec ses camarades, qui est sur son portable, etc., etc. Et c'est ces petits actes-là qui rendent la vie impossible dans la classe. Oui, c'est vrai, c'est toujours plus difficile. Juste une petite correction, j'ai dit tout à l'heure j'étais seul personnel de direction, puis j'ai rendu compte que Elisabeth Honoré Lagarde, proviseur adjoint, était avec moi.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Clerc, qu'on est démunis face aux élèves qui pourrissent les cours et qui sont, et c'est à ça qu'on a affaire quotidiennement, beaucoup plus qu'à l'élève qui a un poignard ou bon, ça demeure heureusement exceptionnel, mais vis-à-vis des élèves qui en effet font toutes sortes d'incivilités et empêchent les autres de fixer leur attention, c'est d'autant plus vicieux que ça rejoint une tendance de fond, alors là, dans le règlement intérieur, avec une certaine stupéfaction, que les sanctions disparaissaient, sanctions qu'à l'avertissement, blâme, qui sont en effet utilisées, avec un certain effet, en tout cas à court terme, disparaissaient au bout d'un an.
Il faut que ça reste entre nous, ça.
Voilà, et ça, ça me semble, excusez du terme que j'ose employer, démagogique.
Oui, voilà. Alors, là, je voudrais... Alors,
je me demande s'il ne serait pas possible de les faire... De garder ces sanctions au moins 3 ans, voire 5 ans.
Oui, moi je voudrais intervenir là parce que c'est une question à laquelle j'ai été très sensible en tant que fonctionnaire d'autorité quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, parce que c'est la même chose pour les fonctionnaires. J'avais un certain nombre d'agents qui commettaient à répétition des actes relativement graves, nous avons des larcins par exemple, mais effectivement on efface, là c'est tous les 2 ans je crois, on effaçait tous les 2 ans des dossiers, les remarques faites ou les demandes de sanctions. Et le résultat, c'est que si on voulait justement aboutir à cette sorte de sommation, si vous voulez, des événements, on tombait dans le harcèlement, parce qu'on était obligé de multiplier à toute vitesse les actions contre ces personnels, de manière à ce que ça ne soit pas effacé trop rapidement. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas encore le délit de harcèlement moral, mais aujourd'hui, je sais que c'est des risques auxquels je me serais exposé. Or, c'était que des gens qui commettaient à répétition des faits assez graves et qui n'étaient jamais, justement... je me rappelle d'ailleurs qu'un des directeurs d'administration centrale m'avait dit il s'arrête juste avant le pénal. Donc, effectivement, c'était des délits réguliers, mais il s'arrêtait juste avant le pénal. Ça, je pense que Sébastien dit on ne peut pas le dire. Non, mais on peut le faire remonter. Je crois que de toute manière, c'est quand même quelque chose qui doit être. Si c'est une réflexion des professeurs, des enseignants, même éventuellement de certains parents, si on a besoin de ce type d'instrument. Il faut peut-être aussi, je dirais, militer en faveur de son rétablissement ou de sa prise en compte. C'est d'ailleurs un problème de fond dans nos sociétés, c'est-à-dire c'est l'idée que, d'une certaine manière, un droit à l'oubli, qui d'ailleurs existe en matière judiciaire, les inscriptions au casier judiciaire périodiquement effacées, d'ailleurs ça a bien été bien utile à deux de nos ministres et un député récemment, cette affaire-là, leur frasque d'ado, une post-ado, ont été effacées, mais elles ont été bien réelles, puisqu'on n'en parle plus du tout de cette affaire-là, hein, pas si vous avez remarqué. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même nécessaire de savoir à qui on a affaire, quelquefois, quand on travaille avec eux, tout simplement, ou qu'on hérite des gens, et ne serait-ce que pour un suivi. C'est des contradictions des éthiques de notre société, mais je crois qu'il peut y avoir des arguments pour l'effacement périodique et il peut y avoir des arguments pour maintenir un certain nombre d'informations. C'est-à-dire, le tout étant, je dirais qu'à ce moment-là, de corriger, peut-être d'avoir simplement aussi les droits d'accès des personnes concernées à leur casier, à leur dossier, etc. Ce qui en France, curieusement, on efface, mais les droits d'accès sont très très peu développés. Est très très peu protégé.
Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Hein. Les droits d'accès sont très clairement établis. Les informations contenues dans les dossiers scolaires sont accessibles aux familles et aux élèves et au personnel.
Non, mais alors là, je suis content que vous le disiez parce que c'est pas dans tous les cas, hein, je veux dire.
Mais en tout cas,
pensez à d'autres.
En tout cas, c'est clairement dans la loi. Moi, personnellement, au risque de paraître démagogique aux yeux de l'intervenante précédente, je crois que cette mesure n'est pas une mesure d'oubli, c'est une mesure. Il faut bien lui donner sa portée. C'est la même chose que l'amnistie. C'est une mesure qui dit que on ne peut pas utiliser des sanctions qui ont été prises dans un délai antérieur à un an à la date à laquelle on se situe Parce qu'effectivement, ils doivent être, entre guillemets, retirés des dossiers. En fait, on ne retire rien des dossiers, parce que sinon, on aurait un personnel de secrétariat qui passerait son temps à fouiller dans les 1900 dossiers pour enlever des bouts de papier. Bon, en réalité, aujourd'hui, on a un fichier informatisé des sanctions, hein, et ça veut dire clairement que si je dois réunir, par exemple, un conseil de discipline sur un élève, je n'utiliserai dans mon rapport préalable, dans le rapport du conseil de discipline, je n'utiliserai que des faits qui ont été que des faits et des sanctions qui ont été pris dans une période qui ne dépassera pas un an avant le moment où on travaille. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'il ne faut pas oublier, vous le disiez, on travaille avec de la matière humaine et on travaille avec des très jeunes élèves. Heureusement qu'on ne va pas enfermer définitivement un jeune dans l'image de lui qu'il a donnée à un moment où il a fait une bêtise. Si on ne croyait pas à la... Comment on appelle ça, à la... Non, c'est même pas à la malléabilité, mais à la capacité de se...
La rédemption.
Voilà, à la capacité d'évoluer, à la capacité de s'améliorer, à la capacité de se corriger, on perdrait toute foi dans notre propre métier. Et si on croit à la portée éducative de nos sanctions, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, heureusement qu'on peut dire la page est tournée. Mais si la page elle est tournée, ça, c'est, je trouve quand même, ah ouais, non mais celui-là, c'est pas étonnant. Hein. D'ailleurs, tout petit à l'école primaire, déjà, il y a dans son dossier des choses, son institutrice disait que, moi je pense que quelque part, bien sûr, on ne reste pas innocent toute sa vie. Hein. Il y a un moment où, heureusement, que nous prenons la responsabilité de nos actes. Mais s'agissant d'enfants, s'agissant de jeunes, je pense que les responsabiliser en disant attention, parce que, imaginez-vous quand même, je vous le dis vraiment à tous, parce que je pense que vous le mesurez peut-être pas autant que moi je peux le faire de là où je suis, mais à chaque fois que je prends une sanction, j'envoie une notification. Et sur la notification, sur le formulaire que nous avons adopté, il est écrit « Cette sanction qui vous est notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception sera portée au dossier de l'élève. » Des bons comme ça, ils font au plafond les parents d'élèves du lycée Hélène Boucher. Parce que porter au dossier de l'élève, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent tout faux d'ailleurs, hein, parce que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent que ça va être dans le dossier qu'elle ne serait pas de leur cher petit quand il va demander à passer dans l'enseignement supérieur. C'est complètement faux, parce que le dossier de l'élève, c'est un dossier interne qui est ici, classé dans une armoire, et ça n'a rien à voir avec les trois bulletins et la fiche pédagogique qu'on voit envoyer.
Est-ce que vous leur expliquez ou est-ce que vous en jouez un petit peu, honnêtement?
Moi, je suis pas un manipulateur ou pas trop, enfin, ça dépend. Je leur dis la vérité des choses. Je leur dis, bien sûr que vous avez raison, c'est grave. C'est pour ça que je vous dis que c'est porté au dossier de l'élève. Et c'est pour ça qu'il y a une trace. Mais, un, cette trace est provisoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définitive. C'est une trace qui va s'effacer avec l'usure du temps, avec l'érosion, une année. Et deux, cette trace, elle est disciplinaire, elle est sur le registre, sur le dossier administratif, elle est dans le registre des sanctions, mais elle n'est pas une double sanction qui va pénaliser le gamin dans sa scolarité du point de vue pédagogique. S'il a les capacités à aller en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est pas parce qu'il a maltraité son professeur qu'il n'ira pas. Et quelque part, je crois que, et moi je me bats aussi dans les conseils de classe pour dire stop, quand on veut me faire inscrire sur le bulletin scolaire qu'un élève est insolent ou qu'il se comporte mal, je dis non, le bulletin scolaire il est fait pour faire un bilan pédagogique et un conseil en orientation. La notification de sanction, elle est faite pour signifier une décision sur le plan disciplinaire. Et il ne faut pas mélanger les genres. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, parce que bien sûr les questions sont liées. Il y a des demandes de parole.
Il y avait monsieur qui, depuis...
Rapide. Non, c'était juste pour citer une anecdote, mais qui va vous paraître peut-être un peu extrême, mais qui est pourtant bien réelle. Il y a quelques années, j'étais dans un lycée militaire. Un lycée militaire, c'est comme un lycée civil, mais avec quand même... avec l'uniforme et avec des mesures. Et je trouve que parfois, on rêve d'un système extraordinairement quadrillé. C'est un petit peu, pour réagir à la difficulté de trouver un équilibre entre un cadre qui fixe les choses, etc., et en même temps l'application forcément humaine des choses. Là, dans ce lycée militaire, j'étais donc surveillant, et tous les soirs, je faisais l'étude, et on devait faire un rapport, etc., et on revenait devant le bureau de, pas le CPE à l'époque, mais de surveillant général, et alors on disait, un tel, justement, il s'est levé, puis il est allé donner un coup de pied à son camarade, alors là, ils avaient inventé un système qui reposait sur l'unité, sur plus tard de délinquance, qu'ils appelaient le démérite. Alors, ça venait, ça, bon, alors ça devait faire 20 démérites. Bon, on notait 20 démérites. démérite, tout ça. Et puis, le jour d'après, il a fait autre chose, 30 démérites. Et puis, à la fin de la semaine, on rentrait et on s'est donné, je sais pas moi, 150 démérites. Alors là, il y avait une autre grille, mais tout était extraordinairement qualifié. 150 démérites, boum, deux retenues, deux week-ends, etc. Bon. Donc, un système extraordinairement codifié. Enfin, ce système, je ne suis pas resté assez longtemps là, mais très vite, en fait, le réel lui échappait totalement. Parce que les démérites, sans cesse, augmentaient avec une amplification hallucinante. On disait en matière de plaisanterie qu'il fallait faire sauter le verrou des 52 week-ends de l'année, parce que, évidemment, le nombre de sanctions, etc. Bon. Et c'est un système totalement inefficace, qui était pourtant extrêmement encadré, alors là, pour le coup, solennel, progressif. Oui. Et le troisième élément, c'était réactif, ça je pourrais, mais évidemment, bon, c'est une caricature, je l'ai annoncé, mais cette anecdote montre que dans un système dont on peut parfois rêver extraordinairement encadré, etc., et qui là a été appliqué, bien, les choses échappaient parce que, évidemment, en partie, la cause n'était pas traitée, si on peut dire, les choses comme ça. Bien. Alors, j'ai autre chose à rajouter, mais je vais essayer.
Éviter que deux micros se
frottent
l'un sur l'autre.
Pardon. Tu veux prendre ou toi? Bon. Juste m'en revenir pour sur cette histoire d'oubli de sanctions. Moi, j'appelle ça faire reset. Donc, voilà. Je trouve que c'est très important et même j'irai plus loin. Je crois que il en va même de la survie du prof. À savoir que faire reset sur un élève, c'est quelque chose de, je pense, salutaire. Alors, je m'explique. Moi, je les ai souvent sur 3 années successives. Hein, en SVT, on n'est que 2 professeurs, donc on suit les élèves. Donc, en plus, sur la période du collège où il y a la puberté, etc. Et en fait, un élève ne sera jamais le même en 5e, en 4e et en 3e. Et donc, savoir faire reset en début d'année, par exemple, de 4e, c'est extrêmement important pour l'élève et pour le prof. Et je dirais même plus faire reset d'un cours à l'autre, parce que l'élève ne sera jamais le même d'un cours à l'autre. Et donc, on peut très bien avoir, je sais pas, des griefs ou avoir posé une sanction à l'élève le cours d'avant, et il va s'avérer être adorable le cours d'après et, en fait, le cours suivant. Donc, cette notion de reset, franchement, je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans notre rapport à l'humain, tout simplement. Voilà. On va faire reset en plus, là, c'est
important
la
aussi.
Valeur ajoutée, là.
Oui, bon, pour tout ce qui est de la sanction, finalement, je rejoins aussi monsieur le proviseur, parce que on le voit bien ici, où on est en plus dans un établissement collège-lycée, il y a des élèves qu'on a en 6e et qu'on retrouve en terminale ou au lycée, donc il y a une évolution morphologique, psychologique, sociale, affective, enfin tout ce qu'on veut, ce sont pas les mêmes élèves qu'on retrouve forcément quelques années plus tard. Pour revenir aussi sur l'exclusion, nous, alors ici, à Hélène Boucher, en EPS, on a un petit fonctionnement interne, je ne pense pas que les collègues soient forcément au courant. Comme on intervient sur les classes de collège et de lycée, même si on est nommé sur l'un ou sur l'autre, quoi, en fait, on punit nos élèves, on sanctionne nos élèves et on leur dit de venir sur nos heures avec les élèves de lycée. Donc, ils ont cette espèce de modèle qui appartient au même monde qu'eux, c'est-à-dire que ce sont des élèves, mais ils sont beaucoup plus grands. Alors, quand ils arrivent dans notre salle et qu'ils nous disent « on vient pour la punition, il faut qu'on court avec les premières ». Et alors, je vous assure qu'ils n'en mènent pas large. Et ça se passe très, très bien. C'est-à-dire qu'on ne les a pas exclus. Même si par exemple ils ont été absents ou on voit qu'ils sèchent délibérément des évaluations, des choses comme ça, on dit il n'y a pas de problème, tu vas rattraper, mais tu ne vas pas rattraper avec ta classe, tu vas rattraper avec une autre classe. Et quand ils sont confrontés à une classe de lycée, là ils sont un petit peu scotchés. Et en général, ça se passe quand même très très bien. Et cette espèce de modélisation qu'on peut avoir, parce qu'on est à une époque où les repères se perdent énormément, et que finalement, ils ont tous les repères du petit jeune bébé quasiment 6e à l'adolescent pénible, etc., et puis au jeune plus jusqu'au terminal, très impliqué dans son orientation et tout. Et je trouve que c'est très... Enfin, nous, on trouve que c'est bénéfique et on a en général des très très bons retours ensuite avec les élèves. Donc cette sanction et cette exclusion interne, nous, on aime bien.
Ça exclut les sports de combat, hein, bien sûr.
Oui, bah, évidemment. Quoique,
Oui, moi, je voulais ajouter, ça m'a fait penser à ce suivi de l'élève, à ce que je constate depuis 2 ans dans le système APB, admission post-bac pour les élèves de terminale, que la rupture, en fait, entre le que constitue le baccalauréat entre le lycée et l'enseignement supérieur s'efface, et que peut-être on n'en est pas complètement conscient, mais que l'élève n'arrive plus vierge, même dans les universités, et même dans les procédures d'affectation dans la première année d'études de santé, c'est-à-dire médecine, puisque c'est médecine qui demande, même si après ça débouchera sur d'autres procédures de santé, ces dossiers-là, avec tous les avis des professeurs, qui sont des avis des pédagogiques, pas des sanctions, bien évidemment, les suivent et que leurs dossiers ne sont plus vierges. Et que ça peut aussi être à double tranchant, parce qu'ils ne repartent pas à zéro sur un choix d'enseignement supérieur avec la maturité qui est arrivée, qui va arriver ou qu'on espère devoir arriver, mais ils arrivent avec un dossier qui commence à les suivre et qu'on n'en a pas complètement fait conscience et que c'est vrai que ça peut être un plus comme ça peut être un moins pour l'étudiant.
Oui, oui, c'est pour ça qu'on ne peut plus marquer sur les bulletins trimestriels tout simplement un avertissement puisque le bulletin trimestriel reste. Je voulais rebondir sur deux choses. En tant que conseiller principal d'éducation, mais même en tant que peut-être enseignant, vous avez parlé tout à l'heure d'une collègue dans sa classe c'était une véritable fête, et vous avez dit que grâce à la CPE, bon, ça s'était arrêté. C'est assez délicat pour un autre adulte de l'établissement de parfois s'immiscer dans la classe, c'est pas qu'on ne veuille pas voir. Mais le problème de l'autorité peut-être provisoirement mise à mal pour des ce que j'avais dit tout à l'heure, on n'est pas tout le temps pareil dans la vie, dans la vie professionnelle. On peut péter les plombs, quoi. Hein, ça m'est arrivé moi ici avec une personne qui est d'ailleurs dans cette salle, et je m'en excuse encore. Donc ça peut arriver. Et simplement moi, je m'imagine dans une classe, parce que j'ai aussi enseigné à l'UFM, avec quelqu'un qui intervient de l'extérieur comme ça, à chaud, je crois que c'est quelque chose qui va être encore plus délicat par la suite. En parlant des sanctions, ne pas confondre sanctions et punitions, en reprenant ce qu'a dit ma collègue de PS, on s'aperçoit qu'on peut jouer aussi sur le levier d'une punition lorsque c'est une punition éducative et utile. On voit bien l'exemple là d'une punition particulière, quelque chose qui a été fait, c'est pas très 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 compliqué, mais et qui peut être utile. Je vois bien par exemple un cas d'élève que j'ai eu dernièrement. Bon, il va venir samedi matin pendant 3 heures pour travailler un peu sur les langues, et je pense que pour lui c'est plus embêtant pour lui, je suis sûr, de venir pendant 3 ou 4 heures un samedi matin que d'avoir un avertissement. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, alors juste un commentaire là-dessus, parce que je ne tiens pas à me dire plus, mais c'est vrai que j'avais noté, et en écoutant Sébastien Kahn, d'autres interventions, ça m'était venu à l'idée, c'est qu'il faut réfléchir. Étant donné qu'on est dans un monde qui est très juridicisé et que justement la sanction fait partie, vient à l'issue de procédures qui sont très codifiées et avec plein d'éléments de contestation, l'important c'est tout le domaine de l'infrasanction. Et là, mais j'avais noté en réfléchissant à ça, c'est le domaine de l'infrasanction, c'est-à-dire comment d'abord éviter la sanction, ça c'est un thème que Sébastien aborde souvent, comment trouver des sanctions, punitions, frustrations, je dirais presque comment être inventif en matière, parce que dans le cas de l'EPS, vous êtes à la limite de ce qui est autorisé, quoi, d'une certaine manière, c'est une convention entre vous, et il se trouve que ça marche, donc c'est très bien. Et moi, je trouve que à partir du moment où on est dans ces... Il y a le carré de la mort, là, je sais pas quoi. Là.
C'est mes élèves qui l'ont appelé comme ça.
Que vous mettez, c'est tout ce que j'appelle l'infrasanction. Je veux dire. Et, parce que, encore une fois, quand on parle de sanction, il y a sanction négative et sanction positive. La frustration est un mode de sanction. Alors vous me direz, ils sont déjà suffisamment frustrants eux-mêmes pour qu'on n'ait pas forcément envie de jouer avec le feu. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a à être inventif là, de ce côté-là. C'est qu'est-ce qu'on peut trouver, à la limite, qui les embête plus qu'un blâme ou un truc comme ça, qu'est-ce qui peut les peser sur leurs activités. Parce que par exemple, une question qui me turlupine et je voudrais la poser à M. Mine, est-ce qu'on a le droit par exemple de confisquer un téléphone portable? Je ne suis pas sûr.
Hein oh, 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 oh,
mais juridiquement, non, on ne veut pas. Moi, c'est pour ça que je pense que ça devrait être de l'ordre de la loi, ça, l'usage du téléphone
portable. Que soit posé, on va y répondre. La réponse est clairement non.
Non, c'est ça.
La confiscation n'est pas interdite. D'ailleurs, nous, on a inscrit un paragraphe au règlement intérieur, dans le chapitre que j'ai intitulé « Les mesures d'accompagnement aux sanctions ou aux punitions », dans lequel on aborde la possibilité de la confiscation. Mais c'est quand même quelque chose qui est très difficile à manier pour une raison bien simple, c'est que lorsque vous confisquez un objet à un élève, vous en devenez automatiquement le responsable.
Non, c'est ça.
Il n'est pas du tout interdit de confisquer. Bon, d'ailleurs, il faut assumer. Alors, que fait le professeur qui confisque ? En général, il vient porter le téléphone portable au bureau de la proviseur adjoint ou du principal adjoint qui s'en trouve embarrassé. Que fait le proviseur ? Il fait acheter des coffres, des petits coffres métalliques qui s'ouvrent avec une clé dans lesquels on met les téléphones portables en prenant bien soin de mettre autour un papier avec un élastique pour bien marquer qu'il a été confisqué le temps à tel élève et on prévient la famille de venir chercher le téléphone portable ou qu'on lui renvoie dans 8 jours. Ça a marché un certain temps. Mais ça a cessé de marcher depuis un jour fâcheux de juin, où alors que dans cette salle, il y avait un petit spectacle fort sympathique de théâtre, la porte était donc assez largement ouverte pour que les spectateurs puissent venir, les parents, les amis, les cousins. Et quand le principal adjoint est revenu à son bureau, ben pendant le petit spectacle, un petit malin avait soigneusement découpé la porte autour du verrou, retiré le verrou, était allé directement à l'endroit où se trouvait le petit coffre, avait déboulonné le coffre du mur, était parti avec le coffre sous le bras et une vingtaine de téléphones portables dedans, une vingtaine d'une usagère peut-être. Et nous, on s'est retrouvés très clairement dans l'obligation, sur du simple déclaratif, parce qu'en plus de ça, on ne savait pas exactement quels étaient les téléphones qui allaient dedans, parce qu'on avait bien mis une étiquette sur le téléphone, mais on n'avait pas un registre à côté, donnant le nom, la marque, le prix, la valeur marchande du téléphone. On s'est trouvé en situation d'avoir à rembourser les familles sur la base de leur déclaration des téléphones qui leur avaient été volés. Aussi essayer de se débrouiller de l'assurance, mais enfin bon, on n'est pas assuré pour ça. Voilà, donc tout ceci pour dire que moi personnellement, j'encourage pas la confiscation du téléphone portable. En revanche, bon, puisque cette question s'est posée, on a eu ici un débat plutôt tranquille d'ailleurs. Hein. C'était dans cette même salle que la question du téléphone portable a été posée par les collègues. Ils disent ça ne peut plus durer. Là. Ils se jettent sur leur téléphone portable. Alors, le téléphone portable interdit dans la classe, ça fait des belles lurettes que c'est fait. Pour autant qu'ils ne l'utilisent pas, parce que ça peut se faire discret. Maintenant, les téléphones, ça a des vibreurs discrets. Quelquefois, ça envoie des fréquences même que nos vieilles oreilles n'entendent pas. Bien orienté, on peut filmer très discrètement. Enfin bon, il y a toujours des pratiques. Mais en tout cas, l'interdiction dans la classe était déjà établie. On est allé un petit peu plus loin pour essayer de limiter le fait que chaque interclasse ait des prétextes à se précipiter sur son téléphone et que les élèves téléphonaient dans les couloirs. Bon, à défaut de pouvoir dire le téléphone portable est interdit au lycée ou au collège, ce qui semble totalement exclu, en tout cas ce qui n'est pas légal, on a demandé, et pas mal obtenu, moi je trouve quand même finalement, ils s'y sont bien pliés, que les élèves n'utilisent, non je sais bien que vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez pouvoir le dire, les élèves n'utilisent, enfin en tout cas ne sont autorisés à utiliser leur téléphone que dans la cour de récréation, qui est un peu comme dans les trains, il y a une plateforme pour la téléphoner, enfin, si vous voulez téléphoner, vous allez téléphoner dans la cour. Et on a demandé, j'insiste bien sur ce point-là, parce que c'est un point clé, on a demandé aux enseignants d'être cohérents dans la manière d'appliquer cette mesure. C'est-à-dire que tout le monde fasse pareil, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves, quand on voit un élève avec le téléphone sur l'oreille, ou le tac comme si on ne le voyait pas, de lui demander de descendre dans la cour, et puis la cohérence peut aller peut-être aussi jusqu'à ne pas soi-même utiliser son téléphone portable dans un couloir au vu au-dessus des élèves. La cohérence n'est pas totale encore, mais je pense qu'on a bien progressé.
Oui, moi, non, qu'est-ce que vous voulez ? Le règlement, c'est une chose, ce sont des vœux pieux. Dans les couloirs, les élèves utilisent toujours les portables et les iPods. Moi, au début de l'année, j'ai fait du zèle, je leur ai intimé chaque fois que j'en voyais un de le ranger. Bon, ils le font d'ailleurs tout de suite, ils le mettent dans la poche, puis je suis sûre que dès que j'ai eu le tour des serveurs, il n'y a pas de personnel. Les élèves sont seuls dans les couloirs, au collège comme au lycée. Enfin, il faut quand même le crier sur les toits. Il n'y a plus de personnel pour faire la discipline. On suppose que les élèves sont de jeunes adultes responsables et qu'ils vont lire le règlement, qu'ils vont l'appliquer, mais je ne suis pas du tout en rapport d'un tout répressif, là, comme au collège militaire dont parlait M. Lambert. Évidemment que ça ne marchera pas, parce que je suis d'accord avec lui. Enfin, mais bon, il y a une question de nuance ici. Il faudrait beaucoup plus de personnel de surveillance. C'est vrai que le problème de fond, il est énorme. Je ne sais pas, là, je vois qu'il est parti. Mais à mon avis, la cause, c'est que l'école, de nos jours, elle n'est plus au centre des jeunes. Les jeunes ont leur vie avec leur culture, toute cette culture de jeunes, avec ce culte de la jeunesse, etc., cyniquement exploité par le marketing à l'américaine, etc. Donc, ils continuent à vivre leur vie très, voilà, dans les couloirs et dans les classes. Bon, de temps en temps, un coup d'œil au prof, ah oui, tu fais ton boulot, pauvre type, t'as pas trouvé à faire autre chose. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ça le fond du problème. Je suis bien d'accord. Et je suis bien d'accord que les exclusions, en fait, c'est un cadeau parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de pas venir au cours. Donc, l'exclusion, c'est contre-productif. Moi, je donne plutôt des devoirs supplémentaires bien choisis. C'est-à-dire qu'ils peuvent leur apprendre quelque chose, en effet. Mais par ailleurs, oui, c'est un élève à moi que M. Pronzato va très gentiment se dévouer pour garder samedi matin. Mais il me rend un service, gentiment, parce que c'est un élève qui a perturbé mon cours à répétition et contre qui le blâme et l'avertissement. Mais il me rend service gentiment, mais on ne peut pas coller sinon un élève au lycée, au collège, oui. Mais les lycées, on a tellement supprimé de postes de surveillants. Il n'y a plus de fonction de surveillant général. Les CPE sont débordés et de toutes sortes de tâches annexes, sécurité routière et tout, ce sont des animateurs généreux. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et souvent très bien, je les admire, mais ils ne peuvent absolument pas veiller à la discipline de 800 000 élèves. C'est dérisoire, enfin. Donc, ben voilà, il y a un petit paragraphe dans le règlement intérieur, les portables sont interdits. Et puis tout continue comme avant, je suis désolée, moi je suis usée, je suis maintenant proche de la retraite, je ne peux plus faire la discipline dans les couloirs, je l'ai fait au début, je n'ai vu aucun collègue, parce que j'ai le regret de dire que malheureusement si l'enseignement est dans cet état, c'est aussi que beaucoup de collègues ont baissé les bras. Je ne leur en veux pas. Le métier est usant. Peut-être que c'est une question de survie. Hein. Le mot de survie, je crois, peut s'employer. D'autres ont des vues démagogiques, pensent que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il a droit à tout. Vous comprenez? C'est aussi le climat général. Et on essaie de ramer à contre-courant. Par exemple, bon, je ne reparlerai pas de l'histoire de la note de vie scolaire, où on donne 20 d'emblée, et il faut prouver qu'on n'a pas 20, vous comprenez? C'est comme donner le bon Dieu sans confession. On ne considère plus qu'il faut faire des efforts pour avoir droit à quelque chose. Tout est dû, on a droit à tout d'emblée. Par exemple, les séjours linguistiques. Bon, je suis professeur de langue et j'ai donné à quelques élèves que j'estime méritants, qui ont un certain niveau et qui ont la volonté, qui ont la motivation, qui ont la volonté de s'améliorer. Je leur ai donné des feuilles avec des propositions de séjours linguistiques. Et j'ai fait ça discrètement d'ailleurs, mais il y a une autre élève qui m'a dit « Mais pourquoi c'est pas pour tout le monde ?» J'ai dit « Non, c'est pour les élèves qui déjà ont un certain niveau et qui ont montré par leur comportement une certaine motivation, une certaine volonté de s'améliorer dans ce domaine. » Elle m'a dit « Mais non, mais c'est tout le monde devrait y avoir droit. » Vous voyez, c'est un état d'esprit. Voilà, bon, je vais arrêter ma tirade parce que je pense que je suis à contre-courant de beaucoup de personnes. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense et je pense que c'est irréversible, quoi. C'est bon, on n'a plus les moyens de lutter. Les enseignants qui veulent encore bien faire leur boulot, on est débordés. Comment voulez-vous d'ailleurs les élèves ne vont pas se surveiller eux-mêmes, ils ne vont pas eux-mêmes ne pas utiliser leur portable.
Bon, on est deux. Il y a plein de réactions là.
Ah bon, merci. Oui, merci beaucoup. Moi, je change un petit peu
par rapport au problème des surveillants, avec ce que je partage quand même avec ma collègue, je pense que je ne suis pas la seule femme, mais c'est par rapport au modèle qu'on donne et les limites justement entre l'autorité. Monsieur Mine dit, voilà, les portables ne peuvent pas être interdits, ils doivent simplement être autorisés dans la cour et les collègues doivent être cohérents, c'est-à-dire ne pas téléphoner dans les couloirs. Alors, c'est vrai qu'on peut on peut être tout à fait d'accord. Et puis aussi, en même temps, c'est un peu opposé au fait qu'on dit, il y a quand même des professeurs, les élèves et les professeurs sont-ils, oui ou non, égaux? Enfin, c'est la question que je pose. Ou bien, est-ce qu'on reconnaît que les professeurs, parce qu'ils sont très pressés entre deux cours et qu'ils ont quand même un coup de fil à passer, sont autorisés à utiliser le portable au vu des élèves, et ou bien est-ce que tout le monde doit s'aligner, est-ce que c'est ça l'autorité? On ne fume pas, donc plus personne ne fume, ça c'est... Bon, moi je suis non-fumeur, je suis très contente, mais tout le monde va dehors pour fumer. Les professeurs doivent montrer l'exemple. Même pour revenir à ce que vous avez dit de cette histoire de professeur qui a jeté les affaires de l'élève dehors et après l'élève a jeté les affaires du professeur dehors, vous avez dit c'est difficile, on ne pouvait pas soutenir le collègue, enfin moi je l'ai pris comme ça, on ne pouvait pas soutenir le collègue parce que c'était lui-même qui était en faute. Est-ce que le collègue était en faute? Bon, c'était une mode de réponse. Il était peut-être en faute parce qu'il n'aurait pas dû s'énerver. Il aurait dû trouver un autre moyen. Mais est-ce que vraiment c'est toujours le modèle? Et alors finalement, on aligne ce que l'on veut des élèves, on l'exige des professeurs. Alors pareil pour le discours. J'ai eu encore aujourd'hui un accrochage avec une élève. Et ça rejoint notre problème qui est l'estime de soi dont vous avez parlé tout à fait, parce qu'à l'après, j'ai discuté avec l'élève et on était en plein dans ce problème. Une élève qui a, pendant le cours, jeté sa trousse sur un autre élève. Voilà. Alors, je n'ai pas vu les tenants et aboutissants, il y avait peut-être une raison, mais moi, c'est l'acte que j'ai vu, que j'ai entendu, et ma réaction spontanée a été de dire à l'élève, mais ça ne va pas, vous êtes complètement folle. Et tout de suite, vous êtes folle, bon. Et tout de suite, l'élève s'est levé, me dit, oui, de toute façon, vous n'avez rien vu, vous êtes au courant de rien, taisez-vous. Et on a eu des échanges et je l'ai fait sortir. Dans mon idée, je la faisais sortir pour qu'elle se calme. Je n'étais pas du tout prête à la sanctionner, mais elle-même, elle a tout de suite monté verbalement. Bon, je vous passe les détails. Elle est sortie et puis donc, elle est sortie, je l'ai vue dans le couloir, puis après, je voulais la faire rentrer, puis elle n'était plus dans le couloir. Bon, elle est revenue quand même chercher ses affaires à la fin de l'heure. Et là, nous avons discuté, elle me dit, mais vous m'avez traité de folle, madame. Ça m'énerve, je ne suis pas folle, comment pouvez-vous dire ça? Alors, je lui dis, mais je vous ai traité de folle, mais est-ce que ça ne vous arrive pas de traiter vos camarades de fous aussi dans le langage courant? Ah oui, mais c'est pas pareil, parce qu'on m'a bien fait comprendre, parce que c'est une élève qui malheureusement s'est déjà fait remarquer dans différentes circonstances, on m'a bien fait comprendre que le langage du professeur n'était pas celui de l'élève, que moi je devais avoir un certain langage vis-à-vis des professeurs, que je ne pouvais pas prendre avec les professeurs le langage que j'ai avec mes camarades. Donc, il n'y a pas de raison, vous me traitez de folle, ça ne va pas. Enfin, donc, voilà, la question que je posais, c'était où était la limite? Est-ce que vraiment, il faut calquer le comportement des professeurs sur celui des élèves? C'est un peu ça dans ce sens.
Vous voulez dire quelque chose?
Juste une petite réponse très très courte à Madame Guyot. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est une question de situation. Quand je dis qu'il serait souhaitable d'être cohérent, d'abord j'ai surtout insisté sur la cohérence dans la manière dont nous exigeons des élèves qu'ils appliquent le règlement intérieur. On peut le dire pour le téléphone, on peut le dire aussi pour, par exemple, les retards. Si un professeur admet des retards de 10 minutes, d'un quart d'heure, 20 minutes dans son cours sans rien dire, tandis qu'un autre ferme la porte presque à double tour au bout de 30 secondes, même à la première seconde, bon, je veux dire, c'est cette disparité-là qu'il faut essayer de traiter pour avoir une réponse cohérente. C'est vrai que j'ai en même temps dit, la cohérence peut aller jusqu'à éviter de téléphoner soi-même dans un couloir à la barbe au nez des élèves à qui on a interdit. Je ne pense pas que ça soit de créer de la confusion entre le rôle des adultes et le rôle des élèves. C'est parce que, finalement, vous avez donné vous-même la réponse avec l'exemple du tabac. La vraie question, là, n'est pas une mise en cause du fonctionnement du cours ou du rapport pédagogique enseignant-enseigné dans la classe. La vraie réponse, elle est dans la relative nuisance
qu'on impose aux autres quand on leur téléphone sous le nez. Moi, je supporte pas que les gens téléphonent sous mon nez dans le métro en m'intéressant à ce qu'ils ont mangé le midi. Oui, là, je suis à la station machin ou dans le train, etc. Mais je supporte pas plus d'un gamin de 18 ans que je le supporte d'une personne d'un âge respectable. Donc, je veux dire que puisque cette civilité-là, on la demande dans les transports en commun, on la demande dans les restaurants, on la demande partout, ben on peut aussi la demander dans l'espace où on vit. Et moi, je suis autant choqué par un téléphone qui sonne dans une salle de classe que par un téléphone de prof qui sonne dans un conseil de classe. Et bien, je vous assure, je peux dire, là, je viens de vivre 15 jours de conseil de classe, je suis au moins à ma troisième ou quatrième sonnerie, quand même. Bon, donc, je veux dire, encore une fois, soyons logiques et cohérents. On ne peut pas exiger d'autrui ce que nous ne sommes pas complètement capables d'exiger de nous-mêmes. Et je ne pense pas que ce soit confondre la place de l'enseignant avec la place de l'enseigné.
Plusieurs choses, effectivement, mais bon, il y a un peu beaucoup. Je ne suis pas tout à fait, évidemment, d'accord avec ma collègue, même si sur tous ces jeunes, heureusement qu'il y a des jeunes aussi, quand même, et que c'est ça qui nous porte, et que c'est ça qui nous pousse, ou qui nous tire, je ne sais pas, mais enfin bon, ils sont là, et puis on est là pour s'en occuper. Moi, je dirais que le plus difficile actuellement avec ces jeunes, c'est qu'ils sont dans une période d'adolescence, qui est une notion assez récente quand même dans l'éducation. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui existait au Moyen-Âge, etc. L'adolescence, c'est une notion moderne, et que cette adolescence, elle est de plus en plus violente, et moi je la compare un petit peu aux crues qu'on observe avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils sont dans une période où tout déborde, où tout pousse, où ils ont plein de choses qui leur arrivent de tous les côtés, même de l'autre côté du bout de la planète, hein. Et donc cette crue à laquelle on n'a jamais été confronté aussi violemment, hein, parce qu'on a été adolescents nous aussi, c'était beaucoup plus calme, même si déjà à l'époque c'était difficile, mais c'était quand même beaucoup plus calme. Et je pense qu'on est dans une crue véritable, et que le plus dur, c'est effectivement de maintenir les berges, les rives, pour essayer de, non pas, nous, ne pas couler, eux, ne pas s'en aller comme ça, très très loin, ou trop loin des berges, et c'est effectivement très difficile. On a tous des enfants, moi aussi j'ai des adolescents à la maison, et donc que ce soit à l'école ou à la maison, c'est la même chose. Le plus dur, c'est de tenir les rênes, les rives, que tout s'écarte pas et que tout ça finisse dans un delta énorme. Bon, c'est quand même assez riche, hein, cette adolescence. Alors par rapport au portable et à tout ce qu'ils apportent en plus, justement, là je suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Mine, il y a un comportement qu'on peut effectivement demander aux enseignants. Pas de portable en conseil de classe, tout à fait, c'est normal, on demande aux élèves. Mais par contre, il y a un comportement souterrain qui nous échappe complètement. Moi, j'ai eu des aperçus parce qu'on a une liberté plus grande avec les élèves en EPS. Et en fait, il se passe des tas de choses dans les cours avec les portables parce que, bon, c'est pas la sonnerie, on n'en est plus à la sonnerie, c'est-à-dire qu'ils sont dans les poches, ils tapent sans regarder. Et que là, c'est même pas la mise en cause de notre enseignement ni rien du tout, c'est la mise en cause de leur réception de l'enseignement qu'on veut leur apporter, l'apprentissage. Qui peuvent en retirer du cours, et là, ils ont zappé, ils sont plus attentifs, ils reçoivent un appel, et puis le prof, il a 35 élèves dans la classe, il explique un truc au tableau, je peux vous dire qu'au fond de la classe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, envoyer des messages, tout ce qu'ils veulent. Là, je crois que M. Mine, c'est quelque chose que malheureusement, quelle que soit la civilité qu'on peut avoir, moi j'ai eu des accrochages aussi avec le portable, jusqu'à temps que les parents viennent, parce que je pense que là les parents, effectivement, quand on les fait déplacer pour un problème, ils n'aiment pas ça du tout, surtout pour ce genre de problème. Et j'étais pas dans la légalité totale, ça a duré une semaine, j'ai gardé le portable, je n'ai plus eu de problème. Je ne recommande pas ce que j'ai fait, mais il faut tenir aussi face aux parents. Moi j'ai eu les parents sur le dos, la proviseure adjoint a eu les parents aussi. Il faut tenir face à l'élève, il faut tenir face à la classe, il faut tenir face aux parents, hein. Et c'est peut-être ça le plus dur. ce qui se passe en ce moment avec les gobelets, c'est ce qu'on voit dans les cafétérias de lycées américains dans toutes les séries. Ben, ils arrivent, c'est très sympa, il y a une cafette, Hélène Boucher, moi je suis pour, hein. Seulement ils arrivent en cours avec le gobelet, quoi. Donc le portable à gauche, le gobelet à droite. Enfin bon, tout ça, c'est des choses qui sont très difficiles à tenir. Et je pense qu'on peut pas y passer, quoi. On est face à ça. Et là où je rejoins donc ma collègue, c'est qu'on est en diminution d'encadrants véritables. Hein, que ce soit à la limite du tutorat, peut-être du temps de tutorat d'élèves lycéens pour des collégiens, je ne sais pas, ça peut prendre différentes formes, parce que là, il y a une fuite d'adultes de tous les établissements, des établissements entre parenthèses privilégiés, pas privilégiés, en ZEP, en ce que vous voulez. Enfin bon, c'est flagrant. Et dans cette crue dont je parlais tout à l'heure, j'y reviens, je pense que les adultes, c'est primordial. Parce que dans leur vie sociale, familiale, les adultes ne sont pas toujours là non plus. Donc voilà. Et je pense que l'adolescent est quelqu'un à encore être là, oui, l'encadrer, l'écouter, le sanctionner, le suivre, l'aider, le conseiller. Enfin, il y a des tas de choses à faire, mais il faut des adultes pour le faire. Et toute notre bonne volonté, celle des CPE, des profs principaux, de tout ce que vous voulez, ça ne suffit pas.
Bien sûr. Alors, sur le téléphone portable et la question que vous avez posée qui est très, très importante du rapport entre à la fois être poli vis-à-vis des élèves et puis en même temps montrer qu'il y a une différence entre les enseignants et les élèves. Il me semble que justement, la réponse à cette question, c'est la politesse. Alors, on n'est pas là pour se juger mutuellement, on est là pour réfléchir. Ça m'est arrivé de répondre au téléphone, par exemple, quand M. Michaud m'appelle, je suis dans un couloir d'établissement, bon ben hop, je réponds. Et oui, je pense que ça pose problème devant les élèves, parce que là, c'est une question de politesse. C'est l'éducateur qui ne respecte pas une règle de politesse. Maintenant, je pense que ça peut se jouer sur d'autres endroits. Alors, j'en avais touché mot la dernière fois, mais quand j'étais élève à la cantine, les professeurs passaient devant nous dans la file d'attente. Et nous, on le comprenait assez bien finalement, puisqu'on se disait, bon, ils ont des réunions, bon, voilà, ils sont... Dans l'établissement où je suis, les professeurs, nous faisons la file d'attente comme les élèves. Bon, hein, je ne vais pas dire que je suis devenu professeur pour passer devant tout le monde dans la file d'attente à la cantine, mais il me semble que là, il y a effectivement quelque chose qui se joue de l'ordre du symbolique. Et il arrive d'ailleurs dans mon établissement que des élèves passent devant les enseignants dans la file d'attente, hein, où est la limite après. Donc je pense qu'en termes de... ou mettre du symbolique sur la différence, sur l'inégalité pédagogique entre les enseignants et les élèves, et ou ne pas en mettre, ou il faut qu'il y ait un parallélisme, c'est quand il s'agit d'une règle de politesse. Quand il s'agit d'une règle de politesse, en tant qu'éducateur, on a un devoir de montrer l'exemple, et parfois d'aller même plus loin que les élèves pour les tirer vers le haut. Alors, il y avait une question également sur le respect, quelle limite ? Autant je pense qu'en matière de sanctions, il faut lever les tabous et la sanction est nécessaire en matière d'éducation, autant je pense qu'en matière de respect, je ne vois pas vraiment de limite. Si, alors bien sûr, celle qui ferait qu'on considère l'élève comme un ami. Par exemple, je ne serre pas la main à mes élèves. Mais non seulement je dis à mes élèves en début d'heure, j'espère que vous allez bien. À la fin de l'heure, je regarde pour les dernières secondes avant la sonnerie, où je verbalise à mes élèves, je vous souhaite une bonne journée, ou bien je dis une bonne journée de travail. Il arrive que dans les classes, on ne me réponde pas quand je dis je vous souhaite une bonne journée. On ne me répond pas parce qu'ils n'ont pas envie de passer pour des bouffons. Mais déjà, j'instaure un climat de respect. Et je pense que si depuis 2-3 ans, alors que je me retourne beaucoup vers le tableau pour écrire, que j'ai des classes qui sont plutôt difficiles, je n'ai pas reçu une seule boulette de papier ou chewing-gum, alors que ça m'arrivait souvent quand j'ai débuté. Je pense que ça joue, ce rapport de respect que j'essaie d'instaurer. Donc déjà, en matière simplement d'efficacité du cours. Et puis, par rapport à notre rôle d'éducateur, où nous avons à les tirer vers le haut, voilà, je pense que bon, sur cette question du respect et de ses limites, ben, j'ai envie de répondre. Peu de limites en matière de respect pour ce qui est de ce que nous montrons vis-à-vis de nos élèves. Voilà, bon, je ne sais pas si là-dessus vous avez des commentaires ou des...
Non, moi ce serait pour autre chose. Je me demandais si M. Yves Michaud, comme philosophe, pourrait nous expliquer avec précision les différences entre la démocratie et la démagogie.
Alors, je vais vous répondre, mais je vais vous décevoir, c'est que malheureusement, depuis le début, il y a toujours eu une confusion entre démocratie et démagogie. Si vous remontez aussi bien à Platon et à Aristote, les premiers à en avoir parlé, ils montrent toujours que chaque fois le régime démocratique, au bout d'un certain temps, et même souvent très rapidement, ça dépend de l'optimisme de l'un ou de l'autre, se dérègle et se transforme en démagogie. Et en règle générale, bon alors il y en a un qui en prend plutôt son parti, c'est Aristote, en disant ben c'est un petit peu comme ça. Hein, on essaye de rendre les hommes aussi bons qu'ils sont et de les utiliser avec toutes leurs qualités, mais ils n'ont pas que les qualités, ils ont des passions mauvaises. Et puis il y a Platon qui est un peu plus radical, lui dit la démocratie c'est le pire des régimes et ce qu'il nous faut c'est un bon système totalitaire, bien organisé par un philosophe éclairé. C'est-à-dire, Platon est un penseur élitiste, sélectionniste, totalitaire. Enfin, c'est vraiment le père de toutes les sociétés à planification. Hein. Une société de caste et à planification. C'est un penseur extrêmement de l'autorité éclairée, du totalitarisme éclairé. Quoi. Même pas le despotisme éclairé, hein, le totalitarisme éclairé. Et donc de ce côté-là, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas. Mais c'est justement là-dessus que je voulais un petit peu parler parce que ça s'adresse à plusieurs questions qui ont été présentées là et puis qui étaient dans le questionnaire. C'est d'abord, vous dites effectivement, je crois que c'est un problème, je dirais pas un problème de crise de société, hein, mais c'est un problème de changement social tout à fait important. Et vous avez eu tout à fait raison d'insister sur la dimension technologique. Moi, je crois que la mentalité presse-bouton, la mentalité ça marche tout seul, la mentalité ça doit arriver automatiquement, c'est une conséquence des technologies que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas comprendre que si on appuie sur le distributeur, il faut que quelque chose sorte immédiatement du distributeur, et si possible, que ce soit gratuit. Hein? Donc vous avez raison de dire que tout le monde a droit à tout. Moi, je l'ai beaucoup dit dans la deuxième partie de mon livre sur le mérite, c'est un des problèmes actuels. Et on va jusqu'au bout de l'égalité, mais l'égalité non plus des sujets, des citoyens abstraits, mais l'égalité des gens avec leurs différences. Donc du coup, des droits pour tout le monde, à tout, en fonction en plus de leurs désirs. Hein, c'est égalité plus customisation, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose que nos gamins connaissent très bien. Hein. J'ai droit à tout, c'est automatique. Et puis, ils sont très surpris en plus si ça ne marche pas. Hein, ça, c'est aussi une chose qui me frappe beaucoup avec les adolescents, et pas seulement dans les rencontres dans les lycées, ou avec les jeunes, hein, en général. C'est ils ne comprennent pas que quand on fait quelque chose qui appelle une distribution, la distribution ne vienne pas automatiquement, qu'il y ait une panne, qu'il y ait un bug, comme il dit, que ça plante. Ça, ils ne comprennent pas. Avec d'ailleurs, en plus, une très curieuse conception de l'absence de responsabilité. C'est-à-dire, je fais une chose, mais la conséquence, elle vient... On ne sait pas pourquoi, elle me surprend. Si c'est ce que j'attends, ça va, mais si c'est pas ça, je suis tout surpris d'avoir induit ça par mes actes. Ça, c'est vraiment un changement social. Alors, par exemple, si vous voulez, ça m'a fait penser, et à base technologique, donc diminution considérable du temps d'attention, et vous ne faites pas de soucis, hein, c'est vrai aussi chez les cadres, c'est vrai aussi chez moi qui suis un lettré, un mandarin de l'ancienne tradition, quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, j'avais bien remarqué que mes autorités supérieures de tutelle au ministère de la Culture étaient totalement incapables de comprendre une lettre de plus de 20 lignes. Et que si vous aviez trois choses à dire, il fallait mieux envoyer trois lettres. Hein, parce qu'une lettre où il est question de trois sujets, c'est au-dessus de la compréhension d'un énarque normal. Hein, c'est-à-dire, peut-être parce qu'il a beaucoup de lettres, mais les gens ne savent plus lire. Donc c'est vrai que ça touche tout le monde. Il faut bien voir. On est obligé de simplifier à l'excès les messages, on est obligé de les standardiser. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je crois que il va y avoir, pour les gens les plus jeunes d'entre vous, pour les gens plus âgés, les choses s'arrêteront, Dieu merci, hein, et en même temps, c'est regrettable, mais il va y avoir des mutations pédagogiques considérables. Considérable, c'est plus possible de continuer avec les mêmes types de programmes et surtout avec les mêmes méthodes d'enseignement. Moi, j'ai eu une expérience récente puisque j'ai refait les programmes de philosophie de la principauté d'Andorre, tel Jean-Jacques Rousseau, la constitution de la Pologne, avec carte blanche. Et je suis tombé sur trois enseignants, avec trois anciens de philo en Andorre, donc c'était bien, qui étaient tous jeunes et qui se sont emparés de programmes extrêmement novateurs. J'avais carte blanche, je pouvais faire ce que je voulais, il n'y avait pas d'inspecteur, il n'y avait pas d'inspection générale, il n'y avait pas d'Arcos, il n'y avait personne, ça allait très bien. On me disait simplement faites quelque chose de bien pour qu'ils puissent aller à l'université en Espagne, en France ou aux États-Unis. C'est tout ce que nous, on vous demande, on ne vous demande rien de plus compliqué. Et ils en ont fait, ils se sont emparés de mes programmes en faisant quelque chose d'assez fabuleux, ils ont fait des PowerPoint. Et du coup, hélas, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la pénétration des nouvelles technologies, parce que c'était trois fois rien en même temps. C'est-à-dire qu'ils font des cours de philo, en gros d'une heure, mais où il y a 20 minutes de PowerPoint très dogmatique, qui est mis d'ailleurs à disposition sur le blog de la classe. Donc on a un matériau, il y a un vrai matériau. Et puis après, il y a 35 minutes d'interactivité. Et ça marche du feu de Dieu. Tout simplement parce qu'on n'est plus avec le cours magistral, mais la partie magistrale du cours, elle est encore plus dogmatique que dans le cours magistral. Hein, je veux dire, c'est une séquence de définitions, de choses très claires, de distinctions. Je pense qu'à terme, c'est le genre de choses qui vont être à peu près indispensables et qu'on va devoir utiliser dans toutes les branches de renseignement. C'est vrai chez les scientifiques, hein, aussi aujourd'hui, moi, quand on fait les conférences de l'Institut, ça, ils font des PowerPoint, hein, je veux dire, ils viennent pas avec un papier. Quoi qu'on dise, il faut une image aujourd'hui aussi. Il y a aussi ça, hein, c'est le cheval de Troie de Sébastien. Mais donc je crois qu'il va y avoir des mutations très importantes. Elles se feront difficilement parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire des PowerPoint ou qui disent moi j'aime pas ça, etc. Et puis, ça demandera aussi l'aménagement des programmes, hein, parce qu'aller faire un programme d'histoire avec un PowerPoint, bonjour les dégâts, hein, je veux dire, ça va pas être facile. Ça a posé des tas de problèmes aussi de droits d'auteur, de choses comme ça. Hein, d'ailleurs, quand Sébastien dit qu'il ne voit pas pourquoi certains cours, on se tuerait à les faire et qu'il n'y aurait pas un cours qu'on ne pourrait pas bénéficier de choses qu'ont fait les collègues, je pense que avant c'était le manuel de référence. Hein, on va vers quelque chose qui jouera avec cette attention réduite, si vous voulez, et qui renforcera aussi l'interactivité et la capacité orale des élèves. Parce que s'il y a un truc qui ne va pas en France, à la différence de l'Angleterre ou des États-Unis, c'est que les élèves ont la langue bien pendue, qu'il s'agit de bavarder et de chahuter, mais pour ce qui est de s'exprimer oralement dans des sociétés qui sont de plus en plus orales, c'est des bûches. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est très difficile d'en faire poser des questions, c'est vraiment des bûches. Et il faut que là aussi qu'il y ait une mutation. Bon, je pense que, sur par exemple les téléphones, une chose que je me pensais, je disais, au fond, on nous a embêtés et cassé les oreilles pour faire une loi sur le voile. Bon, on a réussi à faire interdire le voile, on a interdit les cigarettes, on pourrait interdire le téléphone portable par la loi, hein, je pense. Simplement, quand je dis ça, c'est un vœu pieux, parce que je pense que l'évolution technologique est telle, et c'est ce que vous avez dit, que... De toute manière, ce sera des micro-dispositifs absolument incontrôlables. Quand vous allez au Japon aujourd'hui, vous apercevez que tout est sur le téléphone. Il n'y a même plus d'ordinateur. Il n'y a plus rien. Quand vous allez avoir le iPad qui va arriver, le iPod, etc., la loi de la technologie fait que c'est des choses qu'on ne peut pas interdire. Hein. Donc il faudra trouver des... Alors, une chose que je voudrais dire aussi, à travers nos déplacements, c'est qu'il n'y a pas un établissement qui a vous avez tous les mêmes problèmes d'autorité, mais rassurez-vous, les parents aussi, hein, puisque un des résultats de la diffusion par les journalistes, c'est qu'on a aussi des associations de parents qui nous demandent de venir faire des conférences sur l'autorité maintenant. De dire, mais vous en faites pour les profs, mais nous aussi on y a droit, parce que on ne sait pas faire, nous non plus, on est dépassés par nos gamins. Mais dites-vous bien aussi que les situations sont extrêmement différentes aussi, extrêmement différentes, et que là, ça rejoint la remarque de M. Mine sur les élus locaux. je dirais qu'un établissement, il ne peut pas être en dehors de sa communauté urbaine. Quand vous allez à Migennes ou que vous allez à Tarbes, ce n'est pas du tout les mêmes situations, ou à Moulins, qu'ici. Je veux dire. Et je dirais, à la fois Dieu merci, et en même temps, ici, il y a d'autres choses. Parce que je veux dire, Moulins ou Tarbes, ce n'est pas la joie tous les jours non plus. Hein, je veux dire, du point de vue du divertissement, de la stimulation de l'esprit, des choses comme ça. Donc, les établissements... Pardon ?
Ça sera répété au Moulinois.
Ah, le lycée de Moulins, alors là, c'est un lycée où vous n'avez pas besoin de surveillants.
C'est le lycée où j'ai fait mes débuts.
Mais pas de surveillants, hein. Ça marche, c'est impeccable. Hein. Impeccable. J'ai jamais vu ça. Il y a des années que je n'avais pas vu un lycée pareil.
Vous parlez de
Bandine ? Oui. Et vous avez donc des situations extrêmement différentes, et ça, c'est ce qu'il faut aussi, peut-être qu'il faudrait renvoyer aux élus. C'est que d'une certaine manière, je veux bien que le lycée il serve de garderie pour éviter que les gens commettent des larcins dans la rue, mais peut-être qu'un des problèmes de l'éducation, c'est aussi que depuis 25 ans ou 30 ans, les problèmes des zones sensibles, il n'est toujours pas réglé. Hein, je veux dire, c'est le problème politique, et Dieu sait si on y a mis de l'argent, si on a fait des choses, si on a vu passer des plans de banlieue, si on a vu passer des ministres, et si on a vu passer ça. Je trouve quand même. Et ce que fait l'éducation nationale, c'est qu'elle hérite des problèmes de zone. Moi, qui suis spécialiste de la violence, je trouve que par rapport à la violence entre bandes dans les banlieues, les lycées sont relativement protégés. On s'aperçoit qu'ils ne le sont plus. Hein, mais que c'est inévitable que ça rentre. On ne peut pas le sécuriser, on ne peut pas le sanctuariser, contrairement à ce que l'on pense. Alors, moi, un élément qui m'a... deux éléments, si vous voulez, qui me frappent, moi, par rapport et ce que je vois en parlant avec vous, et ce que... et ma propre réflexion, c'est que je crois qu'il y a un certain nombre de travail et de travaux qui sont à faire en amont, au niveau du collège. Je crois qu'il y a beaucoup de choses d'apprentissage à faire au collège en termes de civilité, de rapports sociaux, de sociabilité, etc. Je le sais parce que j'ai fait des cours de philo à titre expérimental dans les collèges de banlieue. Ça change des choses. Par exemple, si vous prenez un cas qui nous tarabuste tous, c'est qu'ils sont très sensibles à l'injustice et ils demandent des droits. Ben, je crois que c'est assez important, très jeune, de leur apprendre que le juste et le droit, c'est pas la même chose. Et que c'est pas parce qu'on a un droit qu'il est juste, par exemple, et que pas parce qu'on réclame un droit en plus auquel on a droit que ça va donner quelque chose de juste. Et c'est des choses qui sont assez simples à expliquer quand on les a qui sont jeunes, en 5e, 4e, et qui sont assez ouverts, flexibles, et non pas malléables, mais vraiment intéressés à la réflexion. Il y a beaucoup de travail en amont qui devrait être fait, je dirais, au niveau du collège. Je trouve qu'effectivement, au niveau du lycée, ils ont le sexe, ils ont la consommation, ils ont tous les droits que leur donnent Bouygues et SFR, etc. Et beaucoup de choses sont foutues, d'une certaine manière. Ils sont relativement foutues. Hein, c'est-à-dire que, c'est vrai que c'est des sociétés qui sont technologiques, tentatrices, permissives d'ailleurs pour le plus grand profit, hein, parce que imagine qu'un projet de loi d'interdiction du téléphone dans les lycées, vous verriez si Bouygues n'irait pas voir Sarkozy illico en disant, mais attendez, les lobbies du téléphone, ce serait absolument... Alors, je dirais que dans les choses que ça m'inspire, c'est un rééquilibrage collège-lycée. Je pense qu'il faut y penser, et je pense que pas mal de gens y sont maintenant de plus en plus sensibles. Et puis, il y a un point sur lequel j'insisterai beaucoup quand on parle d'autorité, c'est il faut revenir quand même, bon, puisque vous en avez parlé souvent à propos des élèves perturbateurs, il faut revenir à, je dirais, au béaba de l'autorité, du respect, de la discipline. C'est la fonctionnalité. À quoi ça sert? Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qu'on peut essayer d'expliquer aux gamins. C'est-à-dire, au fond, on vous demande de l'autorité. Qu'est-ce qu'une autorité éducative? C'est la question qui a été posée tout à l'heure. L'autorité éducative, c'est celle... elle est intéressante que si elle permet d'éduquer. On n'a pas à aller au-delà. C'est d'avancer. C'est-à-dire que permettre de faire fonctionner le groupe. Hein. Et pourquoi on vous demande de la discipline? Pour faire fonctionner le groupe. Pourquoi on vous demande de respecter l'autorité? Pour faire fonctionner le groupe, etc. De la même manière que, si on prenait la question du respect, je pense que le respect... Il faut respecter les élèves, il faut qu'ils nous respectent, mais il faut, je dirais, que respecter l'élève à titre d'individu jusqu'au moment où on risquerait de perdre de vue la tâche collective de l'éducation. Moi, je ne suis pas du tout partisan à l'assistance généralisée, individualisée. et au lycée supermarché. Parce que si on fait ça, on va perdre l'élément collectif de l'éducation. C'est pas le seul, mais c'est un élément vachement important. Je pense que vous, en éducation physique et sportive, vous le savez. Il y a un élément collectif de l'éducation, et démocratique et républicain, là aussi. Si on se met à faire des trucs à la carte, en fonction des handicaps de chacun ou des besoins de chacun, pourquoi pas des cours pour les surdoués, puis des cours pour les infradoués, etc. Je veux dire, vous voyez un petit peu le sens démocratique et républicain que tout ça a. Donc, je crois qu'en fait, il faut revenir à des fondamentaux très élémentaires, en disant, au fond, la discipline, l'autorité, le respect, ça sert à faire fonctionner correctement le groupe. Et le groupe, pourquoi il doit fonctionner correctement? Il doit fonctionner correctement pour que vous appreniez quelque chose. Alors, on arrive à une chose, à une question que vous avez posée, qui était à la fin, c'est l'intérêt qu'ils ont pour nos disciplines et, je dirais, ce qu'ils voient, et l'intérêt qu'ils prennent à l'éducation. Alors, c'est le seul point sur lequel je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait que nous, en tant que citoyens responsables, mais aussi les décideurs, aussi, c'est essayer quand même et ça a à voir avec l'estime de soi, hein, curieusement. C'est essayer de refaire comprendre aux gamins qu'apprendre quelque chose, ça peut servir à quelque chose. Et je crois qu'il y a une sorte de démotivation ambiante, du genre, de toute manière, même si tu fais rien, t'auras rien. Si tu fais rien, t'auras rien. Si tu fais quelque chose, t'auras rien. Ou bien, si tu fais rien, t'auras beaucoup. Et si tu fais quelque chose, t'auras pas forcément plus. Hein. Et moi, je crois que là, il y a quelque chose qui est assez psychologique. C'est-à-dire, c'est pas de revaloriser le mérite, non, c'est pas du tout, mais le sens de l'effort et le sens en apprenant quelque chose. Et en plus, je veux dire, je reviens toujours à l'exemple du sport. Dans le cas du sport, ils le savent qu'en général, quand on est bon et qu'on s'entraîne et qu'on fait des choses, on peut faire quelque chose. Il y a des domaines en plus où ça marche. Mais curieusement, l'apprentissage de quoi que ce soit, aujourd'hui, on a l'impression que ça ne sert plus à rien. Et que, à la limite, nous-mêmes, on en est. Moi, j'en suis pas persuadé, puisque je fais exactement le contraire depuis de très longtemps, mais en promouvant le savoir. Mais il faut repromouvoir un peu le savoir sous une forme qui soit intéressante, mais en disant, au fond, ça vous servira à quelque chose. Parce que c'est quand même sidérant de voir les gens qui en fait, obèrent ou gâchent leur chance, en quelque sorte, dans un monde où on parle tout le temps d'égalité des chances. Et là, c'est assez psychologique. Moi, je trouve que c'est surtout psychologique. Oui. Voilà, c'était trop long, mais...
On n'est pas assez bien. Par rapport aux hypothes, par exemple, sur la tête et tout, je leur explique, mais il vous faut un moment de concentration. Bon, moi, je pratique la course à pied. Je dis, avant de faire une petite course, qu'est-ce que je fais? Ben, je cours un petit peu pendant 5 ou 6 minutes. Quand on fait un semi-marathon, un marathon, on se concentre. On parle de la discipline, par exemple, le mot discipline. La discipline, c'est aussi la discipline que l'on a chacun pour réussir ce qu'on va faire. La propre discipline de préparer un marathon. L'autorité, je leur dis souvent l'autorité. Bon, il se trouve que j'ai des futurs CPE ici qui sont dans la salle. La différence entre l'autorité et l'autoritarisme, on dit bien de quelqu'un, quand vous-même, si vous passez, vous venez ici, monsieur Michaud, vous faites autorité en la matière. Vous faites autorité en la matière. Votre savoir fait que vous avez l'autorité pour ça. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Et aussi, on a une grande part de travail, hélas, et tant mieux aussi, hélas pour certains, mais tant mieux pour eux, c'est le verbe. Par rapport à l'éducation, c'est le verbe. Et c'est-à-dire que dans les classes, on n'utilise pas assez, on n'a pas le temps d'utiliser assez de casser la solitude de l'enseignant en utilisant par exemple les heures de vie de classe où on peut intervenir à plusieurs sur des problèmes, même quand il n'y a pas de problème pour donner le sens. On n'utilise pas assez ces choses-là. Et donc ce sont aussi des il ne faut pas baisser les bras. La première chose qui est importante, par exemple, il faut donner un bon climat aussi. En ce qui concerne l'absentéisme ou les retards, quand ça part à Valo, c'est très difficile. À Valo, c'est très difficile de rétablir les choses dans ce domaine. C'est quelque chose qui est important à faire. Et souvent, j'interviens dans les UFM, je dis à des collègues, vous avez des élèves qui ne viennent plus en cours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On les note plus. Ça veut dire que, aux yeux même de ces élèves, ils n'ont même plus d'importance et qu'on fait même plus attention à eux. On les note même plus, on les appelle même plus, on n'envoie même plus de courrier. Donc ils ne représentaient pas grand-chose. Donc pour eux-mêmes, ils ne représentent plus rien. Il faut faire attention à tout ça. Voilà.
On va bientôt terminer, mais...
Oui.
Oui, il y a aussi une notion, effectivement, quand on parlait du verbe, etc., croire aussi en ce que l'on dit et ce qu'on veut transmettre, parce que, enfin, je m'explique, se montrer intéressé aussi par ce qu'on raconte. Alors, en SVT, les domaines sont très vastes, hein. Il y a la géologie, la biologie, la physiologie, etc., et donc, forcément, on a toutes plus ou moins des affinités, hein, et ça, les élèves le ressentent. Et donc, on peut très bien perdre des élèves. Je m'explique, par exemple, la tectonique des plaques va forcément moins, quand même, accrocher que lorsqu'on fait la reproduction humaine. Hein. Ça peut être réaliste. Et c'est vrai que le fait de... comment ? Oui, mais bon, en même temps, tout dépend de, aussi de l'âge et puis aussi de la façon dont on l'aborde. Et c'est vrai que raccrocher les élèves à quelque chose de concret, les interpeller sur ce qu'ils vivent ou, si, ou sur ce qu'ils voient partout, hein, dans la société, à la télé, etc., ça c'est aussi très important pour pouvoir capter et l'attention. Et après, là, c'est là où nous on a beaucoup de chance, c'est qu'on peut développer tout un discours en matière d'éducation à la sexualité, à la santé, à la civilité, etc. Et là, il y a un véritable discours et un échange qui s'opère. Et c'est en ça que je trouve que notre matière est très très riche. Et après, bon, on peut être tout à fait prof d'histoire géo, de français ou n'importe, hein, mais le fait quand même d'axer son discours sur la réalité, sur en dehors du livre ou en dehors de... vraiment se servir de l'époque, hein, ça c'est aussi, je pense, quelque chose de très important.
Alors je vous rejoins tout à fait, hein, sur cette idée que les jeunes ont besoin de sentir que nous croyons vraiment en ce que nous transmettons, que nous avons nous-mêmes beaucoup de curiosité par rapport à ce que nous abordons. Et je me souviens souvent de ce que me disait mon instructeur pour le permis de conduire. Il me disait Sébastien, vous regardez trop les obstacles, on va où on regarde. Et je pense par exemple à ces conversations que nous pouvons parfois entretenir en salle des professeurs. Alors encore une fois, je me mets en garde moi-même, hein, ça m'arrive. Par exemple, la sonnerie de fin de récréation retentit et je dis « j'ai pas envie d'y aller », voilà. Ou bien, autant c'est important de parler des problèmes pour chercher des solutions, on se complaît un peu dans « avec cette classe, il n'y a plus rien à faire », etc. Et... en fait, c'est vrai que cet état d'esprit joue sur notre façon de débuter les cours, notamment si on y va en traînant des pieds ou si on y va avec entrain. Et il faut quand même le dire, on réussit encore aujourd'hui. Déjà, la société n'est pas si terrible qu'on peut parfois le dire. Je regardais dernièrement les statistiques du crime. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les années 60, il y avait un peu plus de 2 crimes pour 100 000 habitants en France. Aujourd'hui, 0,4. Ça n'arrête pas de diminuer. Est-ce que c'est vraiment malgré les films violents, les jeux vidéo violents, etc. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, un côté soupape avec les jeux vidéo violents qui fait qu'il y aurait plutôt moins de violence physique qu'avant? Alors, il y a un problème, c'est vrai, de politesse vis-à-vis des jeunes. Bah, je vais terminer non, là-dessus.
C'est juste une anecdote. Oui. Si, il y a eu une enquête récente, très simple, sur pourquoi les spectacles violents rendent moins violents. C'est tout simplement parce que les gens les regardent dans la rue.
Merci. Il faut quand même le reconnaître, des situations de miracle. Et bien sûr, madame, si vous êtes là parmi nous et que vous continuez le combat, c'est que vous le savez bien, vous transmettez encore des choses. Et il y a de ces situations où on est soi-même étonné. C'est vraiment un métier où on est très souvent étonné, parfois en mal, mais parfois en bien. Et je pense à la classe dont je parlais la dernière fois, avec laquelle au mois de novembre je me suis retrouvé dans l'obscurité complète. Il y a eu une bagarre entre élèves, ils avaient coupé les sangles des volets et j'ai eu une séance vraiment très difficile. Et bien avec la même classe, j'ai travaillé dernièrement des extraits de Chagrin d'école de Pénac, dans lequel donc Pénac, en tant que professeur, explique qu'il voit avec ses élèves les pronoms adverbiaux. Par exemple, quand un élève dit « j'y arriverai jamais, monsieur », le « y ». Pénac parle des caves du langage, dans lesquelles on va ranger un certain nombre de choses dont on n'a pas envie de parler. Comme pour ne pas aborder le problème de face, ou même quand un élève dit « je m'en bats les couilles », le « en », qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'on va ranger là concrètement. Et je me disais, j'ai là toute la classe qui est en train de suivre, sauf un élève qui dormait. Bon, on ne peut jamais... il faut toujours être réaliste. Mais bon, j'ai là presque toute la classe qui est concentrée sur un texte d'un type qui a eu un prix Goncourt de littérature. Il se passe des choses quand même. On est donc au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Enfin, il reste des choses quand même dans notre métier où, Dieu merci, on se dit... on sait pourquoi on se lève le matin quand même. Donc voilà aussi par rapport à cette idée que vous soulignez où l'état d'esprit dans lequel on y va joue aussi sur ce qu'on va transmettre, notre propre curiosité par rapport à un texte. Hein, c'est pour ça que la première lecture d'un texte avant de l'étudier, je recommande qu'elle soit plutôt faite par l'enseignant. Les élèves suivent sur leur texte, c'est quand même un exercice de lecture, mais comme ça, de façon à ce que l'enseignant puisse y mettre l'intonation pour donner davantage envie aux élèves de rentrer dans le texte, c'est très important, hein, ce début de cours. Notre curiosité est contagieuse, notre entrain est contagieux, et puis les valeurs que nous pouvons véhiculer, les élèves n'y sont pas complètement indifférents. Je pense à cet élève dernièrement qui me disait « Monsieur, pourquoi vous achetez pas un bête de portable, un iPod ?» Il se moquait de mon téléphone et je lui ai dit « Bon, si vous voulez me faire placer ma fierté dans un téléphone, il vous faudra beaucoup de courage et beaucoup de temps. » Et il m'a répondu « Je vais même pas essayer, monsieur. » Mais je sentais qu'il y avait une certaine curiosité par rapport à une autre conception possible de la vie. Bon, après que dans l'âge dans lequel ils sont, vu ce qu'ils voient à la télévision, vu notre société, pendant un certain temps, ils pensent que voilà, c'est l'argent qui fait le bonheur. Bon, il faut aussi être réaliste. Ils auront le temps de comprendre qu'il y a des bonheurs beaucoup plus grands, et notamment la curiosité. Mais en tout cas, on arrive à l'école aujourd'hui encore à les intriguer à ce sujet. Et puis après, on s'aime. Hein, on peut pas non plus nous demander de rattraper tous les maux possibles de la société. Voilà. Enfin, je voulais.
Bon, peut-être sans. Ça a été. Et c'est riche, hein, il me semble. On va s'en tenir là.
Oui,
on va vous rendre la parole. Hein? Oui, vous l'avez.
Ils vous ont pas proposé des portables
Ah non, moi. Si, c'est déjà arrivé. Qu'un élève vienne me dire si vous voulez. Ou même des PC.
Oui. Juste quelques mots, surtout pour remercier Sébastien Clerc et Michaud de ce qu'ils nous ont apporté. Vous remerciez vous aussi, parce que bon, je pense que pour le coup, c'est très interactif. Moi, ça me fait beaucoup de bien, donc je pense que ça doit vous en faire aussi, parce qu'on partage des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude de donner le temps de partager. Donc, même si on n'était pas très nombreux, je pense que les échanges étaient riches. On voit bien qu'on est dans des problématiques qui ne sont pas strictement locales, qui traversent toute une société, et que les questions sont nombreuses et probablement ne trouveront pas de réponse immédiate, sinon dans des pratiques quotidiennes. Merci aussi de la leçon d'optimisme, j'ai beaucoup aimé la fin. Je crois qu'il faut qu'on partage avec nos élèves un minimum de conviction. C'est le propos que je tenais tout à l'heure au début de la séance, hein, la plainte, hein, et la récrimination n'aide pas. Mais en même temps, je crois qu'on a besoin, vous avez besoin, je sais bien, j'entends souvent parler du soutien, on est soutenu ou on n'est pas soutenu, nous avons besoin les uns des autres. Donc je conçois parfaitement qu'on puisse avoir aussi, quand on est enseignant, besoin de se sentir soutenu par ses collègues, par son administration, par son institution. Voilà, cet espace de parole que vous avez bien voulu ouvrir pour nous dans ces deux séances nous a certainement fait un petit peu avancer. Merci. Ça nous a permis aussi d'avoir un petit échange avec le lycée voisin, avec des collègues stagiaires. On essaiera de continuer sur cette lancée.
Merci.
Merci.